la semaine dernière, j'en étais restée à avoir signalé cette chose peut-être un peu étrange, que Castoriadis insiste très peu sur l'antagonisme de notre société. Il rend plutôt compte d'un imaginaire assez complémentaire où l'institution forme des individus qui remplissent toute la série de rôles nécessaires, mais où on ne sent pas tellement un antagonisme dans les significations sociales elles-mêmes, même s'il reconnaît évidemment le conflit des classes et ce genre de choses. Mais dans les œuvres postérieures à l'institution imaginaire de la société, il revient beaucoup plus sur cette question d'antagonisme et il essaie un petit peu plus aussi de parler de ce qu'on peut faire activement pour dépasser cette asymétrie de pouvoir que nous avons par rapport à d'autres instances. Et il signale, par exemple, dans « La montée de l'insignifiance », donc qui est le quatrième volume des « Carrefours du labyrinthe », il décrit cet antagonisme qui est bien celui de deux significations imaginaires opposées. Hein, des significations, ce n'est pas seulement des antagonismes de force, hein, donc de position, de classe. C'est vraiment dans l'imaginaire même que se trouve l'antagonisme. Donc voilà comment il le dit. Notre présent est animé par deux significations imaginaires sociales tout à fait opposées, même si elles se sont contaminées réciproquement. Le projet d'autonomie individuelle et collective, ce dont nous parlons depuis le début, hein, le projet d'autonomie dont on a vu qu'il était né pour la première fois en Grèce ancienne, et puis qu'il a parcouru souterrainement l'histoire en ressurgissant de temps en temps, et plutôt comme projet d'ailleurs que comme réalisation effective. Donc je poursuis. D'un côté, donc, le projet d'autonomie individuelle et collective, la lutte pour l'émancipation de l'être humain, aussi bien intellectuelle et spirituelle qu'effective dans la réalité sociale, et, d'autre part, le projet capitaliste démentiel d'une expansion illimitée, d'une pseudo-maîtrise pseudo-rationnelle, on a vu pourquoi c'était pseudo-rationnel hein, dans les séances précédentes, qui depuis longtemps a cessé de concerner seulement les forces productives et l'économie, pour devenir un projet global, hein, donc pour s'exprimer dans tous les domaines de la société. Projet d'une maîtrise totale des données physiques, biologiques, psychiques, sociales, culturelles. Hein, on trouve ici donc cette mainmise des significations centrales économiques du capitalisme, cette mainmise dans tous les secteurs. Et donc on voit bien ces deux imaginaires opposés qui courent tout le long de notre histoire socioculturelle depuis les Grecs. Alors, ces deux conceptions radicalement différentes de l'homme, hein, des conceptions de l'homme et du rapport de l'homme au monde, ne pourraient s'exprimer à égalité que si on était dans une société démocratique, c'est-à-dire si elles avaient les mêmes armes, si elles disposaient des mêmes pouvoirs pour avoir une influence effective sur les institutions, et je parle ici, alors cette fois, des institutions concrètes. Il se fait que les deux imaginaires existent, mais que celui qui est traduit dans les institutions concrètes de la société, hein, institutions judiciaires, policières, de décision politique, institutions de l'éducation, etc., l'imaginaire qui se traduit dans toutes ces institutions, c'est plutôt l'imaginaire dominant du capitalisme. Hein, tout est, comme on l'a vu, soumis à l'impératif économique, y compris l'éducation. Donc, il faut se demander comment on pourrait instaurer une véritable démocratie, puisqu'on n'y est pas, et d'abord peut-être s'interroger sur ce qu'on avait évoqué depuis les toutes premières séances et qu'on avait un peu laissé en suspens, c'est-à-dire en quoi est-ce qu'on peut dire que la démocratie est le régime qui correspond à l'autonomie? Pourquoi est-ce qu'une société autonome ne peut être que démocratique? Ça sera le début de mon intervention de ce soir. Et la deuxième question, ça sera quelles sont les pistes que Castoriadis propose pour déjà maintenant, dans les conditions actuelles, faire quelque chose dans ce sens. Alors, en quoi est-ce qu'une société autonome est nécessairement démocratique? Eh bien, dans le fait que le régime démocratique, justement, n'est pas un régime comme n'importe quelle autre organisation politique. En fait, il s'agit précisément de l'auto-institution de la collectivité par elle-même. C'est ça qui définit la démocratie principalement. La démocratie, elle est auto-institution, puisque le démos, hein, se définit comme le collectif citoyen. C'est ça que ça veut dire, Demos, c'est le collectif citoyen. Donc justement, et il se définit comme citoyen, justement parce qu'il élabore l'ensemble des lois et prend toutes les décisions qui concernent la collectivité. Donc on voit bien que, oui, tel que les Athéniens et quelques autres cités démocratiques ont présenté le Demos, il s'agit bien d'une auto-institution du collectif citoyen. Or, pour que la démocratie soit ainsi auto-institution, donc autonomie, il faut qu'elle remplisse en fait trois exigences. La première, c'est que il faut qu'il y ait un équilibre entre trois sphères qui caractérisent le rapport entre le public et le privé. Je vais les détailler. Donc, première exigence, un certain rapport entre le public et le privé. Deuxièmement, il faut qu'elle soit réflexive. Il faut que ce soit une activité auto-réflexive, une réflexion sur soi-même. Et troisièmement, il n'y a pas de fil. Et troisièmement, il faut, et c'est ça, c'est là où on rejoint la définition classique de la démocratie, il faut que tous participent au pouvoir décisionnel. Donc ça, c'est ce qu'on donne d'habitude comme précision, comme spécificité de la démocratie. Donc je reprends ces trois points un par un. L'équilibre entre les trois sphères. Le rapport entre le public et le privé, on peut le décliner selon, disons, une première sphère qui est privé-privé. Entièrement privé, c'est la sphère de l'oikos, en grec, oikos, qui signifie la maison, le domaine familial, et aussi le domaine d'exploitation dans une économie qui était principalement une économie de subsistance familiale, hein, donc de petits producteurs plus ou moins en subsistance autarcique. Et donc c'est aussi le petit domaine, d'où le mot économie. Hein. Économie vient de là parce que ça vient de la petite exploitation qui permet de vivre disons, plus ou moins familialement. Donc ça c'est le domaine de l'oïkos, c'est le domaine de la famille, et il est régi, disons, plutôt par l'éthique que par la politique. Mais bon, on va voir. Alors, le deuxième domaine, il est privé-public. C'est celui qu'on appellera l'agora, hein, si on veut continuer à faire référence aux Grecs, c'est l'agora. Et l'agora, c'est d'abord la place du marché, l'agora. La place publique où tout le monde se rencontre, mais d'abord pour échanger des produits. Donc c'est aussi le lieu de l'économie. Et c'est l'endroit où on échange aussi des choses culturelles. C'est l'endroit aussi où se passent les événements culturels. Donc on dira, dans le monde actuel, l'agora, cette sphère privée-publique, c'est la sphère qui est à la fois celle de la production, d'autant plus si la production n'est pas strictement personnelle ou familiale, comme elle l'est devenue extrêmement rarement dans notre société. Donc si la production est plutôt collective, et donc on imaginera des productions collectives qui sont publiques-privées, parce que ce sont des collectifs organisés de manière autonome, enfin autogérée. Et ce sera aussi tout le domaine associatif, hein, qu'on considère association culturelle, organisation de spectacles, production de livres, d'art, et aussi tout ce qui est association sociale en général. Ça c'est l'agora. Et enfin on a la sphère publique-publique, donc, à laquelle il faut donner le mot grec « ecclésia », parce que c'est bien l'ecclésia qui est l'assemblée, et non pas l'agora, comme on entend souvent la confusion. C'est bien l'ecclésia qui est l'assemblée du peuple dans les cités démocratiques, qui a donné d'ailleurs « église », ce qui est assez drôle comme dérivation. Il faut inclure dans l'ecclésia, donc, non seulement le pouvoir législatif ou le pouvoir de l'assemblée délibérante, mais aussi les autres pouvoirs traditionnellement attribués à la démocratie, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, et dans tous les domaines, et ce dans tous les domaines où il y a un engagement de toute la collectivité pour toute la collectivité, donc des domaines qu'on ne peut pas laisser simplement à l'initiative privée ou semi-privée. Bon, alors ça concerne par exemple l'urbanisme, l'aménagement du territoire, les grandes décisions de la production, hein, les grandes orientations, qu'est-ce qu'on va produire et pourquoi, la propriété, hein, qui va détenir la propriété, c'est une décision publique-publique et non pas privée, de décider qui détient la propriété. Toutes les grandes décisions qui concernent la communauté, l'organisation générale de la communauté. Et on constate que, alors il faut une bonne répartition entre ces trois sphères, parce qu'on constate qu'une société totalitaire, par exemple, c'est une société où il y a une hypertrophie du public public qui tend en fait à intégrer, à recouvrir, à s'immiscer dans les autres sphères. Or, le public public ne peut s'immiscer dans les autres sphères que pour autant que pour certaines petites nécessités du genre, par exemple, dans la sphère privée-privée, établir la loi qu'on n'a pas le droit de tuer ni de maltraiter les enfants. Déjà, ça, évidemment, ça c'est une décision publique-publique, hein, c'est une décision générale qui concerne toute la collectivité et qui n'est pas laissée à la décision de la famille, hein, de savoir si elle peut tuer un de ses membres ou maltraiter les enfants. Pour ce qui est de l'immixion de la sphère publique-publique dans le privé-public, ben, j'ai cité un cas, l'organisation générale de la production, savoir ce qu'on produit, comment et pourquoi, avec qui. Ça, c'est aussi, en général, une décision plutôt de la collectivité tout entière. Mais ensuite, la gestion réelle de la production, donc des moyens adaptés aux fins, etc., ben, ça, ce sera du ressort simplement de cette deuxième sphère. Donc, le totalitarisme, il a tendance à étendre justement la prérogative du public sur tout, c'est-à-dire que jusqu'au sein des relations les plus intimes, il s'immisce, hein, et va les réglementer, enfin, il va s'imposer. L'oligarchie, ce qui nous touche peut-être un peu plus, l'oligarchie, elle aura tendance, au contraire, à privatiser la sphère publique-publique. C'est à ça qu'on la reconnaît. Il y a une privatisation du public. Privatisation du public, on le sait bien, d'abord parce que, de la manière la plus flagrante, tout ce qui est collectif est véritablement vendu par l'État, hein, vendu à du privé, au sens vraiment strict, mais aussi parce que les décisions, le pouvoir décisionnel est capturé, est accaparé par une petite classe de personnes, un petit groupe de personnes, qui donc le prennent comme leur prérogative privée. Le pouvoir devient une prérogative privée d'une certaine classe. Et en outre, cette classe est influencée dans ses décisions par des lobbies qui sont strictement privés, qui sont des lobbies en général économiques, strictement privés. Donc voilà plusieurs raisons pour dire qu'il y a privatisation de la sphère publique-publique. Et ça, c'est caractéristique de l'oligarchie. Hein. Le public n'est plus vraiment public, disons-le comme ça. Au point que y a pas mal de collectifs, disons, qui luttent pour la démocratie, qui disent que il vaut mieux retrouver le mot commun au lieu de public. Hein, au lieu de dire le public a été tellement dévié par l'État et est devenu tellement susceptible de se privatiser si facilement qu'il vaudrait mieux dire commun. Hein, on va essayer de refaire du monde commun, un espace commun où tout le monde soit aussi bien et aussi bien le droit de se trouver. Des services communs plutôt que des services publics dont on ne sait plus pour combien de temps ils sont encore publics, etc. Donc ça, c'est la première exigence que doit avoir une démocratie pour garantir une autonomie. S'il n'y a pas de sphère publique-publique, il n'y a pas d'autonomie, puisque les citoyens ne instituent pas leurs propres lois, c'est bien clair. La deuxième condition, donc, j'ai dit, c'est la réflexivité. Et ça, c'est une exigence que Castoriadis attribue à la fois à la démocratie et à la politique en général. Et on va voir qu'il a tendance assez rapidement à dire l'une pour l'autre. Démocratie ou politique en général, ça devient quasiment synonyme chez lui. La politique étant définie d'une manière assez étroite, puisque en fait il dit « j'appelle politique », je vais vous le citer exactement, voilà, j'entends par politique l'activité collective, réfléchie et lucide qui surgit à partir du moment où est posée la question de la validité de droit des institutions. Est-ce que nos lois sont justes? Est-ce que notre constitution est juste? Est-elle bonne? Mais bonne par rapport à quoi? Juste par rapport à quoi? C'est précisément par ces interrogations interminables que se constitue l'objet de la véritable politique, laquelle donc présuppose la mise en question des institutions existantes, fût-ce pour les confirmer en tout ou en partie. Donc, cette définition de la politique, vous voyez, elle contient des termes absolument essentiels, activité collective d'abord, réfléchie, donc il y a l'idée de réflexion sur soi-même, de retour sur soi, et d'autocritique. Pour Castoriadis, le retour sur soi comprend nécessairement une autocritique. C'est-à-dire qu'on critique ce dont on a hérité, ce qu'on est jusqu'à présent, hein, ce qui nous a formés, ce qu'on a cru jusqu'à présent vrai ou bon ou juste. On le critique, éventuellement pour le reconfirmer, mais en tout cas, on le met en doute dans un premier temps, parce qu'on n'est jamais satisfait, arrêté sur une signification donnée du juste et du bon. C'est toujours une question relancée. Alors, c'est une activité lucide, parce qu'elle est lucide, encore une fois, c'est une condition de l'autonomie, la lucidité sur le fait que c'est nous qui faisons les lois et personne d'autre, et que donc il n'y a pas à se réfugier dans une autorité quelconque pour justifier qu'on a choisi ces lois-ci ou d'autres. Donc, la politique présuppose la mise en question des institutions existantes. Et c'est en fait par cette fonction réflexive, autocritique, et de mise en question, que la politique peut être dite avoir émergé en même temps que la philosophie. Elle est exactement la même expression dans le domaine de l'organisation sociale que la philosophie l'est dans le domaine intellectuel. La philosophie est elle aussi mise en question, autocritique, réflexion continuelle, toujours remise sur le travail de la question de la vérité cette fois. Alors là où la politique c'est la mise en question de la question interminable de quelle loi devons-nous nous donner, du côté de la philosophie c'est la même chose, mais c'est que devons-nous penser qu'est la vérité, quelle est la bonne interprétation du réel et de ce que nous sommes, etc. Donc voilà pourquoi elles ont émergé ensemble, voilà pourquoi on peut dire que c'est le même surgissement et qu'il avait les mêmes conditions au moment où il a surgi. Bon, donc démocratie ou politique, c'est une activité réfléchissante selon cette définition-là. Quant à la troisième exigence, le fait que tous les citoyens veut dire qu'ils participent en principe activement à la politique, donc c'est une tautologie de dire tous les citoyens doivent participer, mais disons tous les membres d'une communauté doivent participer à la décision politique. On avait vu que ce n'était peut-être pas évident et que éventuellement on pouvait considérer qu'une oligarchie pourrait quand même être autonome. À quelles conditions ? On pourrait se dire qu'une oligarchie, donc un petit groupe de personnes qui gèrent toute la société alors que les autres sont passifs, une oligarchie pourrait défendre le fait qu'elle est parfaitement consciente de s'auto-instituer et d'auto-instituer la société, c'est-à-dire qu'elle est parfaitement consciente qu'elle n'obéit à aucune transcendance, elle n'a recours à aucune justification extérieure et que donc elle est seule maître de ses propres lois. L'oligarchie peut dire ça, elle peut être tout à fait lucide sur le processus d'élaboration de ses lois. Et d'autre part, elle peut aussi prétendre que par là, c'est toute la société qui s'auto-institue si elle dit que elle représente totalement la société. Et vous voyez évidemment paraître la justification de la démocratie représentative. Or, est-ce que ces deux affirmations peuvent être vraies ? Est-ce qu'elles peuvent être réalisées ? En réalité, ici je fais une petite digression qui n'est pas dans l'œuvre de Castoriadis, mais je crois qui approfondit et explicite l'esprit de cette œuvre. Donc, en réalité, la première condition, la première affirmation, le fait de dire nous faisons nos propres lois, nous n'obéissons à aucune transcendance ou à aucune autorité extérieure, en réalité, elle est vraie si la deuxième est vraie, c'est-à-dire s'il est vrai que c'est la société tout entière qui s'exprime par cette oligarchie, si cette oligarchie n'est vraiment que le relais de la société tout entière. Pourquoi est-ce que les deux sont liés de cette manière-là ? Eh bien, parce que si l'oligarchie, c'est-à-dire la sélection de certaines personnes parmi l'ensemble des membres de la communauté, si cette sélection obéit à un certain critère, c'est-à-dire si elle est menée en disant qu'il faut répondre à une certaine exigence qui n'est pas possédée par tout le monde, qui n'est pas remplie par tout le monde. Donc c'est un critère de sélection. Par exemple, le critère aristocratique du lignage, il faut être dans une certaine lignée héréditaire, ou bien le critère oligarchique plus actuel de la compétence. Il faut avoir une certaine expertise, il faut être un professionnel pour avoir droit, le droit de prendre les décisions collectives. Si on avance donc ce type de critères, alors en fait, on instaure une hétéronomie. On instaure de ce fait une hétéronomie. Parce que cette exigence-là suppose qu'il y a un certain bien commun qui est donné et indépendant de nous. Qu'il y a une certaine manière de la faire de la politique qui est donnée et qui est indépendante de nous. Et que seuls certains, justement, y ont accès. Qu'il faut justement avoir une certaine compétence ou avoir une certaine qualité héréditaire, bon, ça, on n'y croit plus, mais une certaine compétence pour avoir accès à ce bien politique en soi. Et c'est exactement la justification que Platon donnait de l'aristocratie dans la République. Platon disait, ce sont les philosophes qui doivent diriger, parce que seuls les philosophes ont accès à l'idée du bien. Et si on n'a pas l'idée du bien, donc le bien absolu, l'idée de ce qu'est le bien en soi absolu, on ne peut pas savoir ce que c'est que le bien appliqué à la société. Donc, seuls ceux qui sont capables d'atteindre l'idée du bien, donc avec, après une sélection par l'enseignement, seuls ceux-là sont capables de diriger, et donc en fait on érige la politique en science. Si on érige la politique en science, ça veut dire qu'on considère qu'il y a des lois de la politique, et qu'il faut connaître ces lois, qu'il y a un objet permanent, un objet éternel, qui est le bien politique. Donc en faisant ça, on instaure une hétéronomie, vous voyez bien, on ne dit plus... le bien commun, c'est celui que nous décidons tous ensemble de poser comme bien commun, et ça peut changer. D'autres qui nous suivront, ils trouveront que c'est un petit peu autre chose, leur bien commun. Et il n'y en a pas qui soit absolu de bien commun. On ne dit plus ça. Ça, ce serait une position autonome. La position hétéronome, c'est de dire non, il y a un bien en soi. Et c'est ce qu'on dit maintenant, en disant, il faut connaître les lois de l'économie. Ce sont des lois. Donc, il y a un bien en soi, c'est de suivre un certain type de rationalité, etc. Et ceux qui ne sont pas capables de la comprendre, de la maîtriser totalement dans toute sa complexité, ceux-là ne doivent pas gouverner. C'est une hétéronomie pour cette raison-là. Alors, remarquez que notre société hésite entre deux justifications, justement, de l'oligarchie. D'une part, elle parle donc de compétences, et dans ce cas, elle est une hétéronomie, même si elle ne le reconnaît pas. Mais elle avance aussi l'autre justification, à savoir celle d'être une représentation, simplement, de la société tout entière. Et dans ce cas, elle pourrait se prétendre autonome, en disant, en fait, nous ne sommes que l'expression de l'ensemble des citoyens, nous sommes leurs représentants. Et ici, il y a une critique, évidemment, assez précise de la notion de représentation par Castoriadis, mais bien d'autres l'ont fait. C'est heureusement, je veux dire, il y a moyen de critiquer assez facilement cette notion. Alors d'abord, sur le plan ontologique, si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme en représente un autre? Castoriadis dit que c'est un présupposé métaphysique complètement absurde de considérer qu'un individu peut être représenté par un autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que chaque individu n'est pas absolument unique? Comment est-ce qu'il peut être représenté par un autre? Alors il faut savoir que, historiquement, c'est pas tellement ça qu'on a voulu dire quand on a instauré le régime représentatif. Si on voit un peu les débats qui ont précédé au XVIIIe siècle, principalement, qui ont précédé la Révolution française, parce que ce n'était pas évident dès le départ que ça allait être un régime représentatif qu'on allait instaurer à ce moment-là. Si on regarde un peu les débats, notamment entre Rousseau et puis certains qui sont plutôt pour le parlementarisme à l'anglaise, si on regarde ce débat, on se rend compte que la représentation, elle est conçue plutôt comme une réduction des individus à leur statut social. C'est-à-dire qu'un individu n'est censé décider quelque chose qu'en fonction de son appartenance sociale qui guide totalement ses intérêts. Il va agir en fonction des intérêts de sa classe uniquement. Donc interrogé sur n'importe quelle question dont il faut délibérer, il y répondra nécessairement selon les intérêts de sa classe. Et par conséquent, il suffit d'avoir des représentants de toutes les classes pour qu'on ait l'éventail de tous les avis de tous les individus de la société. Donc il y a vraiment une réduction là qui est extraordinaire, parce que évidemment, on va tous protester contre ça, on va tous se dire, moi si on m'interroge sur une question quelconque, par exemple de politique étrangère ou d'aménagement du territoire, je ne vais pas réagir uniquement en tant que je suis, j'appartiens à tel métier ou à telle classe culturelle, sociale, je vais m'interroger sur, je vais avoir des arguments, je vais avoir une opinion qui dépend de, peut-être de mon histoire, etc. Mais ce ne sera pas la même que tous les gens qui sont dans le même groupe socio-culturel que moi. on le sait tous les jours, on discute avec des gens du même groupe socioculturel, on n'a pas la même opinion sur tout, évidemment. Donc c'est un leurre hein, de penser qu'on est simplement le représentant d'un groupe d'intérêt. Mais ça, c'est la démocratie à l'anglo-saxonne. Et à l'époque, c'était vraiment le cas du parlementarisme qui s'était installé comme ça, comme un équilibre, toujours en tension, entre les groupes sociaux, entre, représentés uniquement par leurs intérêts. Et Rousseau, lui, s'élève radicalement contre ça. Dans le contrat social, il y a vraiment une critique de cette démocratie comprise comme uniquement des luttes entre intérêts de factions. Il appelle ça des factions, quoi. On pourrait dire aussi bien des partis. C'est exactement ce qu'on nous propose avec les partis. On est censé s'identifier totalement à l'idéologie d'un parti, comme si on allait être chaque fois d'accord sur n'importe quelle question qui se présente avec un parti donné, qui serait voilà, le représentant de notre intérêt en tant que groupe. C'est absurde, totalement absurde dès qu'on y réfléchit. Donc cette manière-là aussi, évidemment, de l'oligarchie de se justifier est tout aussi fausse. Elle ne peut d'aucune manière représenter l'ensemble des opinions des citoyens. Hein, c'est pas possible. Une autre manière d'arriver à la même conclusion, donc d'arriver à la conclusion qu'une oligarchie ne peut pas être une autonomie, c'est de considérer que une société autonome est nécessairement composée d'individus autonomes, et non pas seulement d'une partie d'entre eux. Et ça, c'est dû à cette réciprocité qu'on a constatée depuis le début entre les institutions d'une société et les individus formés par elle. Comme il y a une interaction qui revient sans cesse de l'un à l'autre, la société forme des individus du même type qu'elle, les individus à leur tour influencent la société d'après la manière dont ils ont été formés. En même temps, ça n'empêche pas une évolution, mais une évolution lente, puisqu'on doit chaque fois revenir de l'un à l'autre. Mais donc, comme toute institution, l'institution autonome va vouloir former des individus autonomes, des individus qui lui correspondent. Et d'ailleurs, seul un individu autonome est capable de faire de la politique, car ça, c'est une condition. Il doit être capable de réfléchir sur lui-même, il doit être capable de savoir pourquoi il désire ça plutôt qu'autre chose, pourquoi il a cette opinion-là plutôt qu'une autre. C'est une condition pour dépasser le niveau strictement individuel et pouvoir passer à un niveau collectif. Pour passer à un niveau collectif au niveau des valeurs et des décisions, ça suppose d'être capable de réfléchir sur soi. Pourquoi est-ce que j'ai cette opinion? Est-ce que je peux céder à celle des autres ou pas? Pourquoi est-ce que je m'accroche à mon opinion? Il y a quelque chose là. Voilà. Plus on se comprend soi-même, plus on est capable de s'ouvrir au collectif. Et bien sûr, il serait absurde de considérer qu'une société ne se donne comme visée de former qu'une partie d'individus autonomes et de laisser les autres dans l'hétéronomie. Hein, si elle se veut autonome, elle se veut autonome pour tous. Alors, Castoriadis ajoute à ce propos qu'il ne faut pas oublier non plus que l'autonomie n'est pas une fin en soi. Et ça, c'est vraiment intéressant. On ne veut pas l'autonomie pour elle-même. Pourquoi est-ce qu'on veut l'autonomie? On veut l'autonomie pour que les individus aient la liberté et la capacité de faire des choses, de réaliser des choses, de se réaliser. C'est pour ça qu'on veut l'autonomie. L'autonomie, c'est une condition, c'est-à-dire c'est la possibilité de se donner ses propres lois, la possibilité de ne pas vivre sous l'imposition de lois qui nous sont étrangères, avec lesquelles nous ne sommes pas en accord. C'est seulement si on a cette possibilité de collaborer à l'élaboration des lois communes et donc de ne pas subir constamment la loi, la pression sociale, c'est seulement à ce moment-là qu'on a aussi la liberté de réaliser des choses. Ça rejoint la petite formule qu'on avait vue il y a quelques séances qui disait « ma liberté commence avec celle des autres hein. ». Tout seul, je ne peux pas faire grand-chose dans ma sphère privée. Je suis peut-être libre, mais qu'est-ce que je peux réaliser? Mais si la sphère privée-publique et publique-publique sont autonomes, si je peux y intervenir, alors ma liberté est décuplée, centuplée. Je peux faire 1000 choses en plus. Donc c'est ça la visée d'une société autonome, c'est que tous les individus qui en font partie soient libres. Et cette capacité et cette volonté, ce désir d'être libre pour réaliser des choses. Alors ça suppose évidemment ce que Castoriadis va jusqu'à appeler la passion de la démocratie chez les individus. Il faut qu'il y ait une passion de la démocratie, il faut qu'il y ait un goût. pour le fait de choisir ensemble, discuter ensemble, s'intéresser à la chose publique. Et du coup, évidemment, c'est ce qu'il constate le plus, c'est le manque de ce goût, le manque de cette passion, de ce désir de liberté et d'élaboration commune. Dans nos sociétés, on est caractérisé par l'apathie, la privatisation de l'individu, le repli donc sur la sphère privée, le désintéressement pour tout ce qui concerne le public, le politique. Alors, ce désintéressement, il n'est pas venu tout seul. C'est clair qu'il y a eu une convergence entre une certaine tendance des individus à la paresse, au fait que quand on leur dit « on rentre chez vous, on va s'occuper de tout », ben, on a tendance à accepter. Il y a quelque chose d'une facilité, une pente facile, qui certainement, évidemment, a été choisie par une majorité, je dirais, du mouvement révolutionnaire à la fin du XIXe siècle. Fin 19e, début du 20e, c'est là que sans doute que s'est joué historiquement ce moment où le mouvement ouvrier pouvait décider de s'emparer ou de garder la maîtrise de toutes les organisations sociales, aussi bien sécurité sociale, syndicats que décisions politiques, ou bien les laisser entre les mains des parlementaires, des bureaucraties syndicales, etc. Là, il y a eu un choix. Il y a eu une convergence, évidemment, entre une certaine paresse de la part de la majorité de la population et évidemment d'intérêt de la part de la classe qui s'emparait de la maîtrise de tout ça. Pardon ?
C'est plus ça, pardon.
Alors, c'est plus ça maintenant ?
Non, c'est plus ça. Le pouvoir, que les autres veulent garder le pouvoir.
Il y a probablement un peu des deux. Il y a probablement un peu des deux parce qu'il y a eu un moment où on aurait pu ne pas laisser faire. Il y a eu un moment où on aurait pu dire, par exemple, le suffrage universel, c'est un leurre. Attention, ne donnez pas votre voix. Et donc, il y a eu un moment...
Ceux qui ont la science et la connaissance, c'est toujours par là qu'on est baisé, en fait. On peut prendre le fric et le reste, mais la connaissance est la connaissance de tout, et même de la science, ça, c'est difficile, justement. C'est pour ça que je crois qu'on n'arrive pas à instaurer cette autonomie pour tout le monde, je crois.
Alors là, du coup, je vais embrayer sur cette remarque-là. Une condition encore essentielle de la démocratie, mais qui est une condition qui n'est pas du tout hors de portée, qui est parfaitement accessible, c'est justement de dire que, contre l'idée d'expertise, de compétence, etc., la science, c'est l'épistémé. Et ça, c'est dire que s'occuper de la chose publique, prendre des décisions collectives, demande une certaine connaissance. Il faut prendre garde que cette connaissance n'est pas de type épistémé, justement. Elle n'est pas de type scientifique. Ce n'est pas une connaissance scientifique qu'il faut pour s'occuper des affaires communes. C'est ce que les Grecs opposaient comme doxa à l'épistémé. Doxa. Ce qu'il faut, c'est une opinion. Alors, il y a des opinions meilleures que d'autres. La doxa n'est pas nécessairement dévalorisée par rapport à la science. Ce n'est pas nécessairement un manque de science. C'est juste que ça s'exprime dans un autre domaine. L'épistémé, elle s'exprime et elle est valide dans le domaine des choses qui sont telles qu'elles sont par une sorte de nécessité, c'est-à-dire en physique, en mathématiques, etc. C'est une épistémé. On découvre des choses qui sont des régularités qu'on peut connaître, mais qu'on n'a pas nous-mêmes produites. Dans la doxa, on se trouve face à un domaine du contingent, de l'imprévisible et du entièrement à décider par nous-mêmes. C'est le domaine de l'action. On ne sait jamais, on n'a jamais de garantie quant à savoir si la manière dont on décide sera la bonne. Il y a toujours un risque, il n'y a pas de loi de l'action, il n'y a pas de nécessité que si on pose tel acte, il va en résulter telle conséquence. On doit toujours décider dans une certaine incertitude, même si on peut accumuler le plus possible d'expérience pour le faire de mieux en mieux. Donc la doxa comprend l'expérience, elle intègre l'expérience, et même l'expérience du passé. Plus on connaît le passé, moins on est condamné à le répéter. Donc elle intègre toutes les expériences. Mais il n'empêche que ça reste du domaine de l'opinion et pas de la science. Et par conséquent, si on veut que tous les citoyens soient capables de participer à la décision publique, il faut leur enseigner ça, et non pas ça. Il faut que tous soient capables d'avoir une opinion la plus droite possible, la plus lucide possible, étant donné les circonstances données. Et donc, pour ce qu'il s'agit... Alors, j'anticipe un tout petit peu, parce que je voulais de toute façon y venir, sur l'importance de l'éducation. C'est extrêmement important, si on veut faire avancer les choses, de changer notre modèle d'éducation. le modèle éducatif dominant dans notre société, c'est un modèle où, certes, on transmet des connaissances, mais on les transmet de manière non critique. Hein. On les transmet en demandant de répéter, on les transmet en sélectionnant très très fort le type d'information qu'on va donner. Et on n'apprend pas du tout le côté actif de la prise de décision. On n'apprend pas du tout à écouter des arguments, les évaluer, comprendre s'ils sont corrects ou pas, valides ou pas, en comprendre les conséquences, et pouvoir exprimer sa propre opinion de manière claire pour la faire comprendre aux autres. Jamais on apprend ça. Or, ce serait fondamental. C'est la première chose qu'il faudrait apprendre. Et ça peut se faire dans tous les lieux. C'est pas seulement à l'école, ça peut se faire dans tous les lieux. Dans le cadre familial, pourquoi pas. Il y a déjà des décisions à prendre dans le cadre familial. Dans le cadre d'associations, dans le cadre de groupes d'enfants, de jeux d'enfants, de n'importe quoi. Partout ça peut se faire. Sur les lieux de travail, évidemment. Sur les lieux de travail, évidemment. Et il faut bien se rappeler que la paideia, hein, cette éducation au sens large, elle ne se fait pas principalement à l'école, elle se fait tout au long de la vie, dans toutes les instances où on est influencé, où on apprend, où on se forme. Donc ça, c'est vraiment... Voilà, j'en profite, c'est vraiment important de dire que ben, déjà, une première piste, c'est ça. Apprendre à délibérer, c'est le premier pas pour aller vers la démocratie. Mais avant d'envisager les autres pas, les autres pistes proposées, je voulais ajouter une dernière chose concernant le lien entre démocratie et autonomie. Il y a quelque chose qui est tout à fait propre à Castoriadis et qui peut même nous paraître à première vue un peu étrange. Quand il lit les deux systématiquement, il les lit autour aussi du concept de mortalité. C'est-à-dire qu'il dit que aussi bien l'autonomie au niveau individuel, donc la capacité pour un individu d'avoir un certain rapport à son inconscient. Je vous rappelle que là, c'est là qu'il a introduit le plus des notions psychanalytiques. Le rapport à son propre inconscient, pour être un rapport autonome, ça doit être un rapport qui ne le rejette pas, qui essaye de le comprendre le plus lucidement possible en sachant qu'il ne l'élucidera jamais complètement, qui essaye de ne pas se laisser totalement maîtriser par son inconscient, hein, totalement influencé, qui essaye de récupérer le discours de l'autre en le comprenant. Donc tout ça, je résume ce qu'on a vu par rapport à ce que c'est l'autonomie de l'individu. Donc au niveau de l'individuel, cette autonomie suppose, dit Castoriadis, l'acceptation de notre mortalité. Pourquoi ? Parce que la monade psychique, comme il l'appelle, donc celle qui n'est pas socialisée, cette couche non socialisée, elle vise essentiellement à la toute-puissance, à l'illimité de sa puissance. Elle vise à être tout. Et à tout avoir, à tout avoir pour elle. Cette illimitation n'accepte, le fait justement de n'accepter aucune limite, n'accepte évidemment pas non plus sa propre fin. Elle n'accepte absolument pas sa propre fin. Mais c'est plus frappant, cette acceptation de la mortalité, au niveau de la société. Et pourquoi elle est liée à l'autonomie ? Je vais vous lire un extrait de nouveau, qui se trouve déjà dans l'institution imaginaire de la société, dans le passage qui concerne la temporalité des sociétés, hein, donc qu'on a vu un petit peu en détail. Il y a certaines sociétés qui refusent d'admettre leur propre temporalité, qui refusent d'admettre leur auto-altération, qui font tout pour la masquer, hein, qui font comme si, depuis le début des temps, elles n'avaient jamais fait que répéter les mêmes phases, les mêmes rites, les mêmes manières de vivre. Un groupe de sociétés traditionnelles, qu'on appelle traditionnelles pour cette raison d'ailleurs, font ça. Et donc, en parlant de cela, Castoriadis se demande pourquoi il y a un tel attachement à répéter toujours la même chose et à ne pas reconnaître qu'on évolue. Il essaye d'expliquer par un besoin psychique, justement, des individus qui composent ces sociétés. Mais c'est tout aussi valable pour les autres sociétés, en fait, vous allez voir. Il écrit ceci, les arrachant de force à leur folie monadique, donc à leur psychisme complètement sans limite, hein, sans règles. Toute socialisation, hein, c'est une sorte d'arrachement comme ça, hein, à la clôture monadique du psychisme réduit à lui-même. Donc, en les arrachant de force à leur représentation, désir, affect originaire, d'atemporalité. Donc l'affect originaire, c'est celui d'une atemporalité. La toute-puissance comprend évidemment le fait de ne jamais être détruit, donc l'éternité. d'atemporalité, d'analtérité. Il y a aussi, dans la monade psychique, une négation de l'altérité. C'est pour ça qu'on dit que la première phase d'évolution du psychisme du nourrisson, c'est la reconnaissance de l'autre. Hein, c'est de comprendre qu'il y a un autre, et même des autres qui ont entre eux des relations qu'on n'aura jamais avec eux. C'est le sens qu'il donne au complexe d'Édipe, que je trouve assez intelligent. Hein, donc de considérer que... Le complexe d'Édipe, ça consiste surtout à reconnaître qu'il y a une relation entre deux autres personnes que moi je n'aurai pas avec elles, que moi je ne pourrai jamais avec elles. Donc c'est une limitation de la puissance, évidemment, et de l'affection et de tout ce qu'on peut attendre des autres. Et peu importe d'ailleurs finalement que ces autres personnes soient papa, maman, finalement, peu importe. Donc en leur arrachant tout ça, en leur imposant, en les instituant comme individus sociaux, en leur imposant de reconnaître l'autre, la différence, la limitation, la mort, la société leur ménage sous une forme ou une autre une compensation par cette dénégation ultime du temps et de l'altérité. Donc ce serait une compensation que d'instaurer aussi socialement une certaine forme autre d'atemporalité, les obligeant de s'insérer bon gré mal gré, ou sous peine de psychose, hein, parce que si on n'entre pas dans ce processus, on devient psychotique. Les obligeant de s'insérer bon gré mal gré dans le flux du temps qu'on a institué, la société offre en même temps au sujet les moyens leur permettant de se défendre en le neutralisant, le temps, en le représentant comme coulant toujours dans les mêmes rives, charriant toujours les mêmes formes, ramenant ce qui a été et préfigurant ce qui va être. Donc la compensation, c'est de dire, oui, bien sûr, on est obligé d'entrer dans le flux du devenir, on va changer, on va se modifier et on va finir par mourir. Ok, on est obligé d'accepter ça. Mais en compensation, on dira, mais en fait, le temps, c'est pas vraiment un écoulement total parce qu'il revient toujours sur les mêmes formes. On répète toujours les mêmes phases. Donc il y a une certaine forme d'éternité par la répétition, à défaut de pouvoir en avoir comme survie individuelle. Et dans nos sociétés aussi, on a un phénomène de ce type, même si on reconnaît éventuellement une temporalité hein, qui va toujours, linéaire, et qui va toujours dans un certain sens, qui ne revient pas sur elle-même, cycliquement, même si on reconnaît ça, même si on a évacué aussi les consolations, disons, traditionnelles de la vie éternelle, hein, de la survie après la mort, etc., même si ça n'est plus très dominant dans notre société, il y a aussi des consolations. Il y a aussi des consolations par rapport à notre reconnaissance de mortalité qui d'une certaine manière nie cette mortalité. Par exemple, dans notre société, on fait tout pour ne pas voir la mort et pour la reculer le plus possible. Il y a un extraordinaire déploiement d'énergie et de moyens pour retarder le plus possible la mort. Si vous demandez à quiconque ce qu'on ne devrait jamais remettre en cause dans la recherche scientifique, ça sera toujours la recherche médicale. C'est toujours ce qui peut prolonger le plus possible l'individu qui va être demandé par tout le monde. Donc il y a une volonté d'essayer de reculer le plus possible la mort, dans n'importe quel état. On se console aussi, et c'est là qu'il y a un rapport plus direct avec les institutions sociales, on se console aussi de ne pas pouvoir se prolonger individuellement en essayant de se prolonger dans ses œuvres. Et une de ses œuvres, c'est l'œuvre politique. On essaye de créer des institutions qui ne vont plus se modifier, qui nous survivront, et qui nous survivront le plus longtemps possible. On essaie de créer quelque chose de durable, quelque chose qui nous survive. Et en plus, ce qui est encore un autre processus, on compense l'absence d'absolu théologique, hein, si du moins on les a évacués, on les compense en posant d'autres types d'absolu, sans même le savoir, sans les appeler comme ça. Par exemple, la rationalité. Là, si on fait systématiquement appel à la rationalité pour justifier nos institutions, c'est une manière de dire elles doivent durer toujours puisqu'elles sont rationnelles. Et qu'il n'y a qu'une forme de rationalité. Elles sont rationnelles, donc il ne faut plus les changer. À partir du moment où elles sont les plus rationnelles possibles, il ne faut plus les changer. Donc, cette rationalité qui devient une hétéronomie, hein, puisqu'on dit que c'est au nom d'une raison intemporelle qu'il faut agir comme on agit politiquement, donc, cette rationalité est aussi une forme de négation de la mortalité. Et la démocratie est au contraire le seul régime qui reconnaît totalement sa propre mortalité, qui reconnaît totalement que tout ce qu'elle instaure peut être défait par la génération suivante ou même avant ça. Hein, que rien peut-être ne nous survivra, que tout sera peut-être modifié, y compris ce qui nous donnait vraiment du sens, principalement, y compris le sens lui-même. Seule la démocratie peut l'accepter. Et donc voilà comment, de manière, je crois, très personnelle, très originale, et sans doute liée à son activité de psychanalyste, Castoriadis rajoute encore cette relation-là entre l'autonomie et la démocratie. C'est l'acceptation de la mortalité. C'est parce qu'on sait qu'on fait tout nous-mêmes qu'en même temps, on accepte que ce soit périssable, entièrement périssable. Donc, je vais vous lire un petit extrait à propos de ça encore. Un extrait donc dans un de ses ouvrages postérieurs qui s'appelle « Le monde morcelé ». Il dit « Une véritable démocratie, non pas une démocratie simplement procédurale, hein, donc pas seulement une démocratie dans les formes, mais où il y aurait une vraie participation, une société autoréflexive et qui s'auto-institue, qui peut toujours remettre en question ses institutions et ses significations, vit précisément dans l'épreuve de la mortalité virtuelle de toute signification instituée. Ce n'est qu'à partir de là qu'elle peut créer, et le cas échéant, instaurer des monuments impérissables, c'est mis entre guillemets, monuments impérissables, il ne dit pas qu'il faut y renoncer, il ne dit pas qu'il faut renoncer à faire une œuvre, par exemple, sinon pourquoi il aurait écrit tous ces bouquins s'il ne voulait pas faire quelque chose d'une certaine manière qui lui survive et qui serve à d'autres. Impérissable en tant que démonstration pour tous les hommes à venir de la possibilité de créer la signification en habitant le bord de l'abîme. En habitant le bord de l'abîme. Et pourquoi il dit cette expression? Elle revient assez souvent chez lui, là, on est au bord de l'abîme. Eh bien, parce qu'il n'y a jamais de garantie de ne pas se tromper. Parce que la responsabilité collective est totale, puisque personne d'autre n'est responsable que nous-mêmes de ce que nous instituons. Et en même temps, nous n'avons jamais aucune certitude de ne pas nous tromper, de ne pas nous engager dans une mauvaise voie. Sans compter que l'autonomie n'est pas du tout une garantie d'éviter le pire. Une société autonome peut décider collectivement d'instaurer des mesures atroces. Donc ce n'est pas non plus une garantie d'avoir nécessairement toujours institué le meilleur. Et il conclut, dans encore un ouvrage postérieur, il conclut « Autant dire que la démocratie, comme la philosophie, hein, donc de nouveaux rapprochements, écarte nécessairement le sacré. » Écarte nécessairement le sacré, hein, y compris en ce qui concerne la mort, y compris en ce qui concerne tout ce qui peut être pérenne, éternel. Écarte le sacré. En d'autres termes encore, elle exige que les êtres humains acceptent dans leur comportement réel ce qu'ils n'ont presque jamais voulu accepter vraiment, à savoir qu'ils sont mortels. Ce n'est qu'à partir de cette conviction indépassable et presque impossible de la mortalité de chacun de nous et de tout ce que nous faisons que nous pouvons vivre comme des êtres autonomes, voir dans les autres des êtres autonomes et rendre possible une société autonome. Voilà, vous voyez, c'est très clair. J'en viens maintenant à deuxième projet que vous avez annoncé, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ici et maintenant en sachant que nous ne sommes pas dans une société autonome, nous ne sommes pas dans une démocratie. Hein, d'après tout ce qui a été décrit, c'est évident. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer dans ce sens? Et qu'est-ce qu'on peut faire en attendant, sachant que notre liberté, elle est bridée. C'est évident qu'elle est bridée. Nous ne faisons pas tout ce que nous aimerions faire. Nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes notre propre loi, même collectivement, en la décidant entre nous, puisque nous sommes soumis à des lois qui ont été décidées par d'autres, sur lesquelles nous n'avons aucun avis à donner. Donc, que faire? Une première condition, dit Castoriadis, c'est de se libérer, de libérer cette partie de notre imaginaire qui a été formée par toute notre histoire, cette partie de notre imaginaire qui est dominée en ce moment par l'autre partie, par l'imaginaire capitaliste, mais qui demeure néanmoins. Donc libérer cet imaginaire-là et essayer de le développer, de le susciter partout autour de nous. De le susciter aussi bien par des discours, en parlant, mais aussi par ce que nous faisons réellement dans nos propres vies. Est-ce que dans nos propres vies, nous essayons systématiquement d'avoir comme signification imaginaire autre chose que l'économie, le profit, le gain, l'argent, la consommation, ce que nous pouvons acheter, ce que nous pouvons vendre, ce que nous pouvons consommer, ce que nous pouvons acquérir? Est-ce que systématiquement dans nos vies, nous faisons un choix autre, un choix d'autres valeurs? Est-ce que nous les mettons en pratique? Donc ça, c'est une première chose. Donc, déplacer cette signification centrale qui est devenue l'économique et le la consommation, hein, le déplacer de sa position centrale. Et Castoriadis insiste sur le fait que c'est pas seulement pour sauver la possibilité de la vie sur Terre, hein, puisque là on est en train de la détruire pour cette raison, c'est pas seulement pour ça, c'est aussi, dit-il, pour sortir de la misère psychique et morale de nos contemporains. Et je crois qu'il a raison, hein. Il y a une misère psychique et morale, enfin, quelle misère de ne penser qu'à ça, quoi, hein, de ne passer sa vie qu'à ça, c'est misérable, il a raison. Donc, trouver d'autres sens, créer d'autres valeurs est absolument indispensable. On peut commencer par nous, notre entourage proche, nos relations de travail, etc. Et il dit que ceux qui ont conscience de la gravité de ces questions doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir, qu'il s'agisse de la parole, de l'écrit ou simplement de l'attitude à l'endroit qu'ils occupent, pour que les gens se réveillent de leur léthargie contemporaine et commencent à agir dans le sens de la liberté. Il faut redonner le goût de la liberté. Alors, redonner le goût de la liberté, c'est-à-dire hein, de la prise de décision, de la maîtrise sur nos propres vies. Redonner le goût de la liberté, ça ne se fait pas de force. Et ça peut se susciter, notamment par l'exemple, mais ça ne peut pas s'imposer. On ne peut pas imposer l'émancipation à quiconque. Elle doit nécessairement être une auto-émancipation. Et donc, ça exclut aussi, je crois que c'est important, l'idée d'entrer dans des rapports de force, justement, et d'essayer de modifier les institutions par la force. Modifier les institutions par la force, ou éventuellement par les urnes, hein, en prenant le pouvoir, ça signifie instaurer une nouvelle hétéronomie, puisqu'on n'aura pas libéré la majorité, hein, la majeure partie de la population de son imaginaire qui restera le même. Et donc on ne la satisfera pas, et donc ça ne marchera pas. Donc par la force, ça ne sert à rien. Et c'est vrai qu'il y a d'autres arguments contre la force. Il y a des arguments, par exemple, pratique ou plutôt tactique, dire que, ben, étant donné le rapport de force, c'est suicidaire, il ne faut pas s'attaquer par la force. Il y a aussi un argument qu'on pourrait dire éthique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser les moyens, des moyens qui sont opposés à nos fins et qui nous entraîneraient dans une spirale de violence, etc. Donc ça, je pense aussi que c'est une bonne raison. Mais ici, on trouve une autre, encore une troisième raison pour éviter la force, c'est que ça ne sert à rien pour changer l'imaginaire. La force ne sert à rien contre l'imaginaire, il faut le changer en... en proposant autre chose, en montrant autre chose, en développant autre chose, en développant, par exemple, dans cette sphère privée-publique, où on a quand même encore une certaine marge de manœuvre, dans les associations, bah, qu'est-ce que vous faites dans votre association ? Il y a une assemblée qui délibère de manière parfaitement collective et égalitaire, donc c'est déjà quelque chose, ça donne le goût de le faire. Et exiger, alors là c'est le deuxième stade qui est indispensable aussi, c'est que une fois que l'imaginaire est transformé, il faudra évidemment exiger que les institutions s'y adaptent. Il y aura un grand nombre de gens qui aura changé d'imaginaire, au plus ils pourront réclamer que les institutions s'adaptent à leur imaginaire. Et en même temps, je pense qu'il est absolument indispensable de continuer à, en parole, dénoncer les fausses justifications de l'oligarchie. Hein, fausses justifications que j'ai présentées tout à l'heure. La représentation est un leurre et une illusion métaphysique, et la justification par la compétence est fausse en vertu de ceci. Hein. Tout à fait. Donc je pense que nous avons des armes, hein, intellectuelles de pensée pour pouvoir combattre ça, disqualifier le discours du pouvoir et exiger un autre type de pouvoir. La désaliénation de l'individu lui-même repose sur une condition que Castoriadis ne met pas en doute, c'est-à-dire qu'il ne met pas en doute le fait que ça existe vraiment en nous, parce qu'il y a de multiples manifestations de ça, c'est justement la subjectivité réfléchissante. Il est certain, parce qu'il en a vu suffisamment de manifestations, qu'il y a en nous une capacité de réflexion qui nous empêche, hein, d'être asservis simplement à la répétition du même, à la répétition de ce qu'on nous a dit, hein, à l'intégration du discours de l'autre et à la répétition de toujours les mêmes gestes, les mêmes activités, les mêmes raisons, les mêmes significations. Donc, cette instance aussi, cette instance réflexive, elle aussi, elle peut être stimulée par l'éducation, elle peut être stimulée par le dialogue, elle peut être stimulée par la psychanalyse. La psychanalyse, pour Castoriadis, elle a pour principale visée, pour principal but cela. Rendre un individu capable de autoréflexion. Alors évidemment, la psychanalyse, tout le monde n'en a pas besoin. Il ne va pas dire que tout le monde doit en faire une. Il y en a besoin quand justement il y a un blocage psychique tel que l'individu n'arrive pas à le faire lui-même. Il y a un blocage psychique qui nécessite quelqu'un d'autre pour le débloquer. Mais pour les individus qui n'ont pas de névrose particulière, cette autoréflexion, elle peut s'installer par soi-même. Il est parfaitement possible de se demander... Oui. Oui, ça c'est une question vraiment intéressante. Oui, il le considère comme une épistémée. C'est-à-dire, alors, qui s'acquiert différemment des autres sciences, puisqu'elle ne s'acquiert pas par enseignement, mais par pratique. Elle s'acquiert par la pratique. Mais, alors, on pourrait dire qu'elle est entre épistémée et techné. Elle, c'est pas une doxa. C'est ça, pour être capable d'exercer une doxa. Lucide, consciente, efficace, voilà. Mais c'est une... Oui, je dirais, elle est entre épistémée et techné. C'est une pratique, mais qui demande un savoir. Et donc, il s'acquiert, ben, justement, en étudiant les textes. Il travaille énormément les textes des psychanalystes. C'est pas seulement la pratique, je veux dire, le fait d'avoir fait soi-même une psychanalyse et puis de l'appliquer à d'autres, c'est pas seulement ça, c'est vraiment travailler les textes théoriques, les comparer, voir où sont... où il faut les améliorer, etc. Donc, oui. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ? Oui, alors, je vous ai encore un tout petit détail, j'ai à peu près fini. Quand on se demande, et quand on a demandé à Castoriadis, comment concilier le fait de se donner à soi-même sa propre loi et le fait d'accepter les lois de la collectivité, puisque même en démocratie, on devra accepter les lois de la collectivité. Hein, on ne pourra pas exprimer seulement sa propre loi. Je veux dire, il faudra se mettre d'accord avec les autres, et il faudra parfois se soumettre à une loi pour laquelle on était opposé, mais qui ne l'a pas emporté dans la discussion. Hein, donc comment concilier cela ? Alors, pour répondre à ça, Castoriadis dit « Il suffit que j'ai eu la possibilité effective de participer activement à la formation et au fonctionnement de la loi. Hein? » La possibilité effective de participer activement à la formation de la loi. Mais je pense qu'il faut encore ajouter que « possibilité effective », ça reste un tout petit peu trop ambigu. Parce que dans la société actuelle, on vous dira « Mais vous avez la possibilité effective de participer à l'élaboration des lois. » Présentez-vous, vous avez le droit de vous présenter, d'être élu. Vous avez le droit. Alors, une objection, je dirais, un peu superficielle, serait de dire, oui, mais il faut des moyens. Hein. Effectif, ça veut dire qu'il faut des moyens. Il faut de l'argent, il faut des influences, des relations. Je crois que c'est une demi-objection. Parce qu'il est facile d'y répondre que vous n'avez pas besoin d'avoir ça personnellement. Il suffit que le parti dans lequel vous vous inscrivez ait des moyens. Et vous, vous obéissez au parti. Vous montez dans les hiérarchies du parti. Et petit à petit, ben, si vous correspondez au type de leader que le parti cherche, vous allez être promu. Mais exactement. Mais voilà. Mais alors, qu'est-ce que vous faites ? C'est plus du tout votre opinion individuelle que vous défendez. C'est celle du parti. Et donc, à quoi bon ? Hein ? Et donc, c'est ça la vraie objection, effectivement. C'est ça la vraie objection. C'est de dire, non, on n'a pas la possibilité effective de collaborer à l'élaboration des lois, puisque si on y arrive... Étant donné la structure politique actuelle, si on y arrive, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait que répéter l'opinion du parti. On ne fait que défendre les positions du parti, et pas du tout les siennes. Donc c'est là la vraie objection. Hein. Donc ça, c'est important. Et je dirais que là, Aristote, hein, dont Castoriadis s'inspire beaucoup sur les questions de la démocratie, parce qu'Aristote a vraiment décrit, non seulement décrit la démocratie telle qu'elle se passait, et surtout les différentes formes de démocratie qui existaient, mais en plus, il l'a analysé. Il a analysé ses conditions de possibilité. Il a répondu à des objections. Bon, il faut lire la politique d'Aristote, c'est vraiment très, très stimulant. Et donc, Aristote, je crois, est finalement moins ambigu que Castoriadis quand il parle de ça, de ce pouvoir effectif de participer. Parce qu'Aristote, il distingue deux définitions du citoyen. Quand il se demande c'est quoi un citoyen, il dit il y a une définition du citoyen en général, hein, dans n'importe quel régime. Ça, c'est la définition, celui qui a la possibilité de participer au pouvoir législatif et judiciaire. Il dit aussi judiciaire parce qu'à l'époque, les tribunaux étaient tous des tribunaux publics, enfin des tribunaux des tribunaux formés de populaires, en fait, formés de personnes du peuple, alors que maintenant, il n'y a plus que les assises, éventuellement, qui le sont. Donc, il dit, ça, c'est le citoyen en général. Il a la possibilité de participer au pouvoir délibératif et judiciaire. Mais le citoyen en démocratie, c'est pas ça. Le citoyen en démocratie, il participe effectivement et en permanence au pouvoir délibératif et de manière temporaire au pouvoir exécutif et judiciaire. Et ça, ça fait toute la différence. Et le temporaire est basé non pas sur une compétence, mais sur le tirage au sort, comme on sait. Donc, et tirage au sort qui était organisé de telle façon que tout citoyen avait de très bonnes chances de, au moins une fois dans sa vie, recevoir une charge exécutive ou une présence dans un tribunal, ou siéger dans un tribunal. C'était quasiment impossible d'y échapper, étant donné qu'on ne pouvait pas y aller plus d'une fois, etc. Donc, en fait, il y avait une rotation, et les rotations étaient assez rapides. Donc, voilà la grande différence. Et c'est pour ça que le mot « possibilité », il faut y faire attention. « Possibilité effective de participer ». Non, il vaut mieux dire « non ». Le vrai citoyen, c'est celui qui participe effectivement au pouvoir délibératif. Et rien n'empêche que ce soit en permanence et toute sa vie. Voilà, je voulais juste lever cette dernière ambiguïté, dire parce que voilà, ça nous fait évidemment... Alors il y a toute la question pratique de comment est-ce qu'on va instaurer une démocratie directe dans une société très nombreuse, etc. Mais tout ça, je crois qu'il a parfaitement raison de dire, parce qu'évidemment on l'a interrogé là-dessus, parfaitement raison de dire... Si on a la volonté de le développer, on est assez intelligent pour trouver des moyens. Et je dirais, il y a eu des moyens qui ont été proposés dans la tradition du mouvement révolutionnaire. On a proposé des assemblées locales qui se fédèrent, etc. Mais tout ça est parfaitement possible et organisable. C'est juste une question de volonté. Voilà. Et donc, je ne peux pas dire plus. Mais je veux dire, si on arrive à libérer l'imaginaire et de l'individu, et l'imaginaire social, puisque cette tendance existe dans la société, on ne doit pas... On est avantagé, on ne doit pas la recréer, il ne faut pas un nouveau surgissement d'une signification, elle existe déjà dans notre histoire. Il faut juste la revaloriser. Donc si on arrive à stimuler cela, prenez une attitude réflexive dans les deux cas, recréer des nouvelles valeurs, un nouveau sens, une nouvelle passion du collectif, une nouvelle passion de la décision collective, etc. Ben voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire à partir, évidemment, de ces deux sphères-ci, et ensuite exiger que ça s'instaure dans celle-ci. On ne peut pas dire plus, il n'y a pas plus de recettes. Voilà. Bon, je remercie beaucoup pour votre attention. Et je signale qu'aujourd'hui, donc, il y a quelqu'un qui a demandé à prendre la parole pour présenter quelque chose. Donc, je vais vous la donner en premier lieu, si vous voulez. Continuez.
Très, très gêné, très intimidé.
Parce qu'il a préparé quelque chose, quoi. Depuis plusieurs séances, il prépare.
Donc, un peu de tolérance.
Mais prenez le micro, non ?
Oui, bon, je vais parler fort. Je sais pas.
Vous voulez pas venir devant ? On vous verra, ce sera plus agréable.
Je me fais violence, mais je vais parler fort. Je vais parler fort, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, d'abord, je tenais à remercier Annick. Non, s'il y a un vrai... Oui, pardon. Annick, parce que je me permets de l'appeler Annick, parce que j'ai passé des soirées vraiment très agréables. Et je tenais à ce que ce soit dit, et en particulier avec ce public. Bien. Je ne peux pas non plus ne pas faire un clin d'œil ou remercier Richard Martin, parce que on a inauguré finalement des nouveaux lieux. Et il est la preuve réelle que l'utopie s'amène à des réalités, puisque déjà ce théâtre qui existe, c'est quand même pas très banal, qui plus est, les endroits que nous fréquentons en ce moment sont complètement fous pour nous qui l'avons vu démarrer. Et je voudrais dire un peu, citer Victor Hugo, comme on fait son rêve, on fait sa vie, et les rêves qu'on a en nous, on les retrouve en dehors de nous. Je crois qu'on a un bel exemple vivant. Bon, je voudrais aussi insister sur Léo Ferré, parce qu'il y avait cette image derrière qu'on n'a pas pu ne pas sentir près de nous. Tout simplement, et là on vient à l'essentiel, à ce qui nous concerne, par rapport, il s'intéresse énormément à la philosophie, vous le savez, mais par rapport au sort des artistes, vous m'entendez ? Je peux parler encore plus fort. Vous savez, vous vous souvenez, ils sont d'une autre race, ils sont d'un autre clan. Les artistes, bon, j'aimais pas ce terme race, mais j'ai compris que c'était dans le sens anthropologie, dans le sens social. Moi, je rajoutais d'une autre caste, d'une autre classe. Enfin bon, ça nous a, toute notre jeunesse, donné du courage pour tenir le coup. Il y a 20 000 ans qu'ils sont à vos fenêtres, donc vous voyez, je crois que j'ai beau écouter attentivement tout ce qu'on a dit, je ne me fais guère plus d'illusions. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie, il disait, la lumière ne se fait que sur les tombes. Donc il prophétisait un jour dans 10 000 ans, on parlera la même langue. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ça, ce sont des petits rappels. Voilà pour ce qui est de Ferré. Et moi j'ai travaillé beaucoup depuis 2 ans sur Rousseau, j'ai fait une série sur les rêveries. Alors je vais une série de toiles et d'écritures. Une 11e rêverie, bon. Je voudrais insister, je suis peintre, hein. Évidemment ça va se voir peu à peu. Donc je voudrais insister sur Jean-Jacques Rousseau, puisque vous en avez très bien parlé. Il voulait le divorce entre l'individu et la société. C'est quand même une attitude aussi très particulière. Il ne voulait pas instituer la fête aussi. Je fais allusion à 2013 en ce moment. C'est pas formidable forcément à tous les niveaux. Pour Camus aussi, l'artiste est entre le ressentiment et la satisfaction du besoin. Bon, tout ça, je crois que ça peut rejoindre indirectement tout ce qui a été dit sur ces problèmes de trouver sa place dans la société. Et il faut quand même le dire, parce que je n'ai pas osé intervenir lors de la 3e ou 4e intervention publique ici. J'ai toujours peur d'être hors sujet, ce qui est souvent le cas. Si nous ne vivons pas sous un régime autoritaire, il y a eu un sujet abordé comme ça, ou tyrannique, il y a bien eu une dictature exercée depuis des décennies, insidieuse, dans le monde des arts. Bon, j'étais au premier plan, je ne sais pas vos vies à vous, mais moi je l'ai quand même pris en pleine gueule. Ce n'est pas du ressentiment, hein, je pense qu'on sera d'accord. Avec les appareils d'État récents, ministère de la Culture, DRAC, FRAC, Fonds Régional d'Aide aux Copains, c'est pas comme ça que je vais rentrer dans le frac, mais ça y est, les musées m'acceptent, ça commence. Mais j'ai 65 ans, 7, 6, enfin on s'en fout. Donc une culture hégémonique, le nihilisme actif dont parlait Nietzsche, la décadence, qui était quand même très appliquée, la décadence, crise propre à la modernité, tout ça faisait partie de tout ce que j'ai entendu, la négation de tout ce qui est renversement de toutes les valeurs, la subversion qui est maintenant l'avantage pour avoir des subventions, la qualification, une valeur ajoutée aux matériaux bruts de la création. On les défend dans les écoles de beaux-arts. Enfin, il faut être subversif, il faut être transgressif. Bien, donc tout ça, je vais arriver à 3 questions, rassurez-vous, mais je peux... Enfin bon, vous me dites sinon. Donc, non, mais l'artiste inactuel, c'est aussi un problème éternel. Ça a toujours été ça rejoint aussi ce problème de notion du temps. Mais le capitalisme, c'est quand même la manipulation du consommateur. C'est la société fondée sur un réseau d'interdits, d'injonctions négatives, de disparition presque totale de règles positives et de valeurs. On parlait à l'instant d'en restituer. Rien que le mot fait peur aujourd'hui. On est tout de suite extrémiste ou extrême droite ou je ne sais quoi. Pour des pseudo-valeurs plates, avec la consommation comme fin en soi. Donc une instauration de la dimension identitaire du faire et du représenté social, inséparable du réseau d'institutions. Donc une inertie, vous venez d'en parler, propre aux institutions, dépassant ses raisons d'être, sa fonction. Tout ça s'épuisait dans Castoradis, dans un ensemble d'institutions au service de la société devient une société au service des institutions. Je pense que c'est une synthèse, tout ça. Maintenant, la société fabrique ses artistes et imagine, invente, institue l'art. Donc j'arrive à une première question, mais c'est peut-être... Et là, je comprendrai très bien, c'est peut-être des... Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a que de mauvaises questions. D'ailleurs, les 3 vont se regrouper. Donc, avec la prise en charge d'une activité fabriquée, l'artiste et la société peuvent-ils cohabiter harmonieusement ou sont-ils antinomiques? Et puis, plus généralement, c'est peut-être la même question, peut-il exister une société autonome, on vient d'en parler, mais, et non aliénée, dans une société du spectacle? Il y en a qui ont connu le situationnisme, on en parlait un peu. Moi, j'ai pas spécialement, j'étais jeune, mais enfin bref, j'ai pas spécialement tout accepté avec cette, justement, menace et l'arrivée de l'homo festivus pecunius. Ça change la donne. Voilà pour la première question. Je voudrais au passage dire à un monsieur que j'ai vu le premier jour et qui avait dit une chose qui m'a touché beaucoup. Il disait que la philosophie l'avait beaucoup aidé. Bon, Et moi, je voudrais dire la même chose au niveau de l'art. La pratique de l'art, ça a vraiment été une construction nécessaire pour ne pas être dévoyé, pour ne pas rater complètement une vie avant même de la commencer, malgré tout ce qu'on dit. Donc, vous voyez, c'est pas... Bon. La deuxième question, avant, donc, je reviens sur deux, trois notions. L'art est devenu une réification et l'artiste une disparition. Alors, le terme artiste, aujourd'hui, il faudrait peut-être redéfinir, on ne sait plus trop ce que c'est. On passe directement de l'individu à la masse sans passer par l'universel. Je crois que ça, c'est redoutable. C'est cette rapidité. Il n'y a plus de mise à distance. Je crois que c'est ce qui nous empêche aussi peut-être d'avoir un pouvoir d'agir efficace. L'homme est un objet, marchandise, outil, l'individu social. Enfin, si j'ai bien compris tout ce que vous avez dit, hein, moi j'ai lu et j'ai écouté, mais j'espère qu'il y aura des gens qui ne seront pas d'accord. Il n'y aura plus de peintre. Ça m'a une phrase qui m'a impressionné. Il y aura des hommes qui peindront, Marx, hein, une imagination productive et non créative. Enfin, Marx ne disait pas ça, mais c'est dans ces chapitres-là. Nous ne sommes pas au monde pour le subir, notre destin n'est pas la servitude. Pour un artiste, il ne s'agit pas de transformer le monde, mais de l'interpréter. Oui, changer la phrase. Hein. La phrase, c'est, il ne s'agit pas de... d'interpréter le monde, mais de le transformer. Un artiste, je crois que c'est pas le même rôle. Pour Jean-Jacques Rousseau, l'art est fait pour décorer et mettre des guirlandes sur nos chaînes, mais dans l'encyclopédie, ça me rassure, il écrivait « L'art doit accroître et assurer le bonheur des hommes jusqu'à l'humble cabane du moindre des citoyens. » Donc j'aimerais bien revenir aux Lumières, malgré tout ce que vous avez dit, d'ailleurs vous l'avez cité, je pense qu'on y retourne vraiment avec grand bruit. On est là dans le tout se vaut. Les beaux-arts ont disparu, il n'y a plus d'art majeur, mais des arts mineurs. On n'est plus dans l'art, mais dans la communication. Je crois que la philosophie est aussi en danger, pareillement. L'institution, l'identité de la norme. Alors, là-dessus, je répondais à la deuxième question. Je répondais, qui est la deuxième question? Peut-on poser un veto à ce relativisme mesuré, que j'appelle démesuré, à ce consensus mou? Je préfère un rationaliste personnellement mesuré, un pictural existentiel, une raison déraisonnable au relativisme mesuré, plutôt que de prétendre, ça j'ai aimé parce que c'est dans le livre, se situer sur le terrain du savoir absolu. Parce que toutes ces notions m'ont bousillé, bien entendu, des décennies durant. Vous savez, les livres que j'ai lus avant de venir ici, c'est « La crise de la représentation », donc il faut quand même avoir le moral. Bougnou, « L'art impossible », Philippe Dagen, « L'art à l'état gazeux », Yves Michaud. Alors, peindre dans ces conditions, il faut être stoïque. Bon, donc, un troisième volet, puis j'en termine. La culture est un antinéant, disait Malraux. Les hommes veulent tout réduire à des systèmes, l'art avec, société dite performante, monde absurde, on en a un peu fait allusion, cruel, bête, besoin artificiel, l'artiste doit obéir aux conditions sociales et politiques. Prométhée lui-même était enchaîné pour avoir dérobé et remis aux hommes le feu sacré. Jean-Jacques Rousseau, dans ses rêveries, avait les yeux tournés vers la lumière, qui était la nature, ça c'est, oui, les rêveries, et vers l'homme, les ombres. L'effondrement des normes et des valeurs font surgir, alors ça c'est plutôt optimiste, font surgir des réponses et des intentions. Le temps comme altérité, altération implique l'espace, il est création, temps de l'éclatement, explosion, scission, rupture, ça c'est des phrases qui m'ont fait beaucoup de bien, transcendance immanente comme source, surgissement de la genèse ontologique, l'homme comme le magma n'arrête pas de bouger, il peut se mouvoir et créer dans et par le discours ou par la peinture ou autre chose. Il n'y a jamais de réalité, la musique, il n'y a jamais de réalité que celle socialement instituée, on est tous très conscients, mais la réalité naturelle résiste et ne se laisse pas faire, se prête à la transformation, on peut s'y mouvoir. Couper, ça c'est un peu pour répondre aussi à vous, que faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc on est dans cette réalité, dans cette transformation, on peut s'y mouvoir, couper, assembler, pouvoir être autrement. J'essaie de répondre aussi à ma façon. Et je termine avec la dernière phrase du livre. Dans cette institution d'un monde recouvrant tout ce qui lui échappe, peut-être, et c'est peut-être d'une gravité décisive, l'énigme du monde tout court, provision inépuisable d'altérité, lui manque d'être, excusez-moi, c'est très mal dit. Dans cette institution d'un monde recouvrant tout, ce qui lui échappe peut-être est d'une gravité décisive. l'énigme du monde tout court, provision inépuisable d'altérité. Il lui manque d'être source et origine d'altérité, une autre altération perpétuelle. Donc ma troisième question, mais encore une fois, elle se retrouve dans les trois. Vivons-nous la fin de certaines formes artistiques inéluctables? La peinture est-elle devenue à l'heure une illusion sociale, historique? Voilà, ben je vous remercie.
Qui a envie d'enchaîner?
Monsieur a fait preuve d'autonomie.
Absolument.
Tu vois, hein?
50 ans de pratique de peinture.
Oui. Je voulais te demander quelque chose. Je suis pour l'association du thème de Mestiel. Tout ce que tu viens de nous dire, je voudrais que tu le transmettes, que tu le mettes en France, si tu veux, je le rappelle. Et que ce soit publié sur le bulletin de l'association qui paraîtra maintenant en octobre. Et alors, je profite de l'occasion pour vous dire qu'en octobre, nous retrouverons Annick avec un nouveau cycle.
Ah, ah.
En octobre, voilà, la rentrée de la saison.
Vous fait un texte avec le texte.
Si vous êtes tout simplement à l'association, il n'y a pas de problème.
En pandémie, quoi, quand vous voulez faire un.
Ah, mais c'est pas une condition pour venir assister ou autre.
Non, bah justement dans notre, c'est important qu'on en parle dans notre bulletin, quoi. C'est important, tu vois.
Bon, alors si personne ne veut prendre tout de suite la parole, moi je peux enchaîner sur quelque chose. Donc, parce que par toute cette application à l'art dont j'ai très peu parlé, mais Castoriadis en parle quand même un peu, c'est le problème de la création qui est arrêtée dans l'art, qui est arrêtée dans la philosophie, donc l'impossibilité de créer des nouvelles formes, etc., qui fait partie effectivement de cette de cet épuisement des significations sociales et donc de la montée de l'insignifiance. En fait, tout ça, moi j'aimerais bien vous proposer d'en parler à propos de Nietzsche. Et donc j'aimerais bien savoir si ça vous intéresserait, voilà, que le cycle prochain, ça soit consacré à Nietzsche, parce qu'il a beaucoup parlé de ça. Et je trouve qu'il a une vision, pas seulement de l'art, hein, mais notamment de l'art, qui est très subtile, parce qu'il y voit plusieurs aspects, évidemment. Il y a l'art consolation, il y a l'art idéalisme, il y a l'art... Et puis alors, il y a l'art dionysiaque, celui qui exprime des forces qu'on ne peut pas exprimer autrement. Donc... c'est très riche, bon, et plus tout le reste, évidemment, pas seulement l'art, mais enfin, je profite donc pour vous proposer ça. Si tout le monde est d'accord, je pense qu'on peut s'arrêter à ça. J'avais une proposition de quelqu'un par mail qui m'a demandé de parler de Deleuze aussi. Je ne sais pas si la personne est là. C'était vous, d'accord. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée non plus, à condition qu'on sélectionne le Deleuze, dans toute la production de Deleuze, il y a des livres extrêmement techniques, Différence et répétition, Logique du sens, infernal. Si vous ne connaissez pas toute la logique, vous ne comprenez rien. Ou des livres d'histoire de la philosophie, comme sont sur Kant, etc., qui sont, je dirais, trop techniques et pas assez raccrochables à des questions... mais... Évidemment, il y a les deux volumes, l'Anti-Édipe et Mille Plateaux, où il développe justement les concepts auxquels on fait le plus souvent référence, hein, nomadisme, déterritorialisation, les rhizomes, et qui est en même temps une critique du capitalisme et une critique de la psychiatrie, enfin de la psychanalyse, surtout lacanienne, mais enfin différente. Donc ça pourrait être intéressant. Donc je retiens l'idée aussi, mais... s'il faut choisir le premier des deux, ça sera pour moi Nietzsche. Et d'ailleurs aussi, il y a une certaine continuité, une certaine logique, parce que Deleuze, évidemment, s'appuie beaucoup sur Nietzsche. Se réfère pas mal à Nietzsche. Nietzsche, c'est un auteur qui a quand même très très fort influencé la philosophie du XXe siècle, et qu'on cite dans tous les sens. Et ça aussi, c'est important. On le cite à tort, à tort et à travers, mais on utilise, disons, ces contradictions apparentes pour le tirer dans un sens ou dans l'autre.
Y compris l'extrême droite.
Voilà, donc c'est assez fou que autant de gens s'en revendiquent pour des... Alors qu'il y a quand même une cohérence, si on veut vraiment l'étudier, il y a une cohérence importante, et on ne peut pas dire n'importe quoi.
Louandra Salomé avait écrit un bouquet qui a été publié en 1900, auquel déjà elle dénonçait les récupérations de Nietzsche par des mouvements d'extrême droite, alors que lui était totalement éloigné de ça.
Absolument.
J'avais pas compris, mais quand on m'avait dit ça, c'est un petit peu resté.
Sa famille avait des gens parce qu'il...
Oui, voilà. Et il s'est fâché d'ailleurs avec... elle s'est fâchée avec, avec sa sœur, son beau-frère.
C'est sa sœur qui l'a tiré vers le nazisme.
Ah ben, oui.
Enfin bon, je propose pas de parler déjà de Nietzsche, mais on peut plutôt continuer sur cette dernière séance. Je sais pas si quelqu'un veut réagir sur autonomie, démocratie ou sur ce qui vient d'être dit, bien sûr, de l'application à l'art.
Ben sur l'art,
vas-y Tony.
Non, il y avait dans l'idée de Prométhée, il y a quand même le crime de Prométhée, c'est d'avoir apporté aux hommes les conditions de l'autonomie. Puisque c'est-à-dire, tel qu'il est présenté, en tout cas dans la mythologie, il est celui qui permet aux hommes d'échapper aux règles de Dieu et qui leur donne des conditions pour être libres.
Alors, il y a un double mythe. Hein, parce qu'il y a le mythe de Prométhée qui apporte le feu technique, en fait. Le feu technicien, le feu par lequel ils vont pouvoir développer l'artisanat et donc plutôt développer leur indépendance matérielle. Et ça c'est le rôle de Prométhée, et c'est vrai qu'en partant de ce mythe-là, on a pu construire le fameux mythe de Protagoras. Donc Protagoras, en partant de là, a dit « oui, mais ça ne leur a pas suffi aux hommes ». Parce qu'ils avaient la technique, hein, ils avaient le feu, ils construisaient matériellement, ils se débrouillaient sans problème, mais ils n'avaient pas d'autonomie. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas la politique, et ils n'avaient pas les valeurs nécessaires pour fonder une politique, c'est-à-dire la justice et le respect. C'est de là que la justice et le respect sont les valeurs nécessaires. Et Zeus a dû intervenir parce qu'il a vu que les hommes étaient en train de s'autodétruire. La technique, elle leur donne les armes, etc. Mais elle ne leur donne pas la sagesse pour les utiliser. Voilà. Et donc, il leur a donné à tous la justice et le respect. Et c'est Protagoras, alors c'est très intéressant parce que Protagoras fonde là-dessus la démocratie en disant « tous les hommes l'ont reçu ». C'est une manière mythique de dire que c'est dans la nature humaine, la justice et le respect. Et que donc, puisque chacun l'a en soi, il est injuste d'écarter certains de la prise de décision commune. Ah, c'était vraiment une manière de justifier que tout le monde doit s'occuper de la politique puisque tout le monde a les mêmes capacités, disons en tout cas ces conditions essentielles qui sont la justice et le respect.
Mais c'est drôle, moi je me rappelle, mon père me disait, à la libération j'étais petite, mais il me disait, il était au PC mon père. Alors lui, il était au PC libertaire, il voulait qu'il n'y ait plus de patron, il voulait donc autogérer toutes les entreprises et tout ça. Il s'est heurté, il me l'a raconté plusieurs fois, à Thorez, à Cachin, à tous ces gens-là. Et chaque fois qu'il a proposé donc de faire ça, chaque fois on lui répondait, bon, on ne peut pas prendre le pouvoir parce qu'on n'a pas la connaissance. On peut prendre l'armée, on peut prendre les flics, on peut prendre le fric, mais on ne peut pas prendre la connaissance, on ne l'a pas. Et chaque fois, j'ai l'impression, même en 68 d'ailleurs, on a manqué à un moment donné, si tu veux, de cette espèce de connaissance, même simplement humaine et intellectuelle aussi, pour pouvoir à un moment donné dire, on vous fout dehors, vous, avec tout votre savoir. Et c'est ça qui gêne aussi à un moment donné. Enfin, ça m'a toujours, si tu veux... un peu gêné. Mon père m'en avait parlé, j'ai trouvé ça... Au début, j'ai gueulé en disant « Ouais, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu, c'est des feignards. » Mais en fait, je crois que c'est un peu vrai quand même. Quand tu parles, bah même dans les syndicats, quand tu discutes au niveau des syndicalistes, à un moment donné, de vouloir agir, on a beaucoup milité avec les syndicats, avec les unions locales et départementales, les syndicats, et chaque fois, on s'est heurté un peu à ça. Quand on était avec dans les unions départementales avec les prolos, par exemple, et il disait, mais non, on ne peut pas, on n'a pas suffisamment de... Et chaque fois, on s'est heurté à ça. Alors, j'ai jamais su, en fait, comment on pouvait faire leur dire, mais non, vous pouvez le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir une culture insensée. Et je suis toujours là. J'ai jamais pu avancer là-dessus, tu vois. Je le pense encore, j'arrive pas, quoi.
On a eu récemment, enfin assez récemment, un exemple du contraire, quand il y a eu l'effondrement en Argentine, l'effondrement de l'économie, pas tellement les piqueteros, mais ceux qui ont repris les entreprises, ceux qui ont repris les entreprises dont les patrons étaient partis, et qui ont commencé à les faire marcher, voilà. Donc en autogestion, qui ont instauré les taux d'autogestion.
Les patrons étaient partis, c'est ça, tu vois.
Ah oui, les patrons étaient partis. Mais justement, par rapport à ce que tu disais...
Depuis l'enfance, ça m'a toujours perturbé.
Ça veut dire qu'il n'y avait pas besoin de cache pour avoir la connaissance.
Non, mais c'est surtout qu'ils se sont cru capables. Ils se sont dit, nous sommes capables, puisqu'après tout, c'est nous qui travaillons. Donc, nous savons ce qu'il faut faire pour travailler. Et donc, ils ont... Et alors, dans les premiers témoignages, c'était assez extraordinaire parce que dans les premiers témoignages, donc, sur cette autogestion, ils disaient qu'ils travaillaient plus qu'avant. Parce qu'il fallait aussi organiser toute la gestion, reprendre les contacts avec les clients, les fournisseurs, etc. Ça leur prenait plus de temps. Et en plus, surtout, parce qu'ils faisaient des assemblées. Et donc, il fallait ajouter le temps de l'assemblée au temps de travail. Mais ils disaient qu'ils étaient infiniment plus satisfaits parce que, justement, la première chose qu'ils avançaient, c'était qu'ils avaient compris qu'ils étaient capables. Et que ça, c'était incomparable. Parce qu'avant, on leur disait toujours, bon, vous êtes les exécutants, il faut qu'il y ait une direction qui donne les ordres. Et là, le fait d'avoir compris qu'ils étaient capables, mais ils s'étaient lancés sans être sûrs, justement. C'est ça qui est bien.
On bord de l'abîme.
Sinon, il ne pourrait jamais y avoir de surgissement, évidemment, si on devait toujours avoir la certitude d'avoir acquis déjà ce qu'il faut. C'est toujours ce cercle vicieux qui est en fait un cercle vicieux apparent. On devient autonome en le faisant. On ne l'est pas tout de suite, ce n'est pas donné tout de suite. Donc, même chose, on peut dire, on se lance dans une activité qui demande un certain savoir. On se lance et puis au début, on le fera moins bien qu'après un certain temps. Donc, il y a vraiment l'idée d'accepter le processus.
Moi, c'est imaginer que tu dises par paresse, parce que c'est sûrement vrai, mais je ne peux pas accepter cette idée-là. Et pourtant, c'est vrai que
je pensais
on
plus.
On le voit même dans les associations. On se trouve tout d'un coup à une trentaine à militer, à faire des choses, et au bout de 2 ans, on se trouve à 5 ou 6. Bon, systématiquement, presque. C'est comme ça. Mais c'est insupportable, quoi. Comment faire autrement pour que ça n'arrive pas, ce truc-là, justement.
Je pensais surtout à la paresse au moment où il a fallu décider si de l'organisation politique, je dirais. Est-ce qu'on acceptait l'organisation politique parlementaire, donc représentative? Et je crois que là, il y a une sorte de paresse de dire, bon, d'accord, on va laisser ça. On ne va pas s'occuper de ça en plus de tout le reste, on va leur laisser ça. Je pense que là, ça a été une sorte de facilité.
Quant à l'autogestion, il y a eu plusieurs faits dans l'histoire d'autogestion. Ce n'est pas du tout une utopie.
À la libération à Marseille. À la libération, à Marseille, des entreprises comme Coder étaient autogérées.
Les mineurs en Angleterre,
de
partout. Il n'y a pas d'opposition. On peut pointer, se mettre un scope, quand ils veulent, les ouvriers peuvent se mettre un scope.
Par quartier, d'ailleurs.
Ils ont même des facilités. Ils ont même des facilités pour être législatifs de se mettre un scope. Mais enfin, les scopes, bon. Ça dure aussi ce que ça dure. Moi, je travaillais avec la SCOP, qui était la plus importante de France, à OIP, qui était une SCOP qui était arrivée à 5 000 personnes, à l'Association des ouvriers des semaines de précision. Mais, au bout d'un certain temps, ils se sont trouvés qu'ils se croyaient tous les patrons.
Oui, mais parce que nous sommes...
C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer quelque chose d'autonome à travers
une société capitaliste.
Une société qui est comme ça.
Oui, mais il y en a que ça dure quand même. Et comme
ça peut durer quand c'est des petites équipes de gens qui se connaissent bien, qui échangent.
Mais pourquoi justement ça ne dure pas alors? Pourquoi ça ne dure pas? Je crois qu'il y a les autres gens qui, eux, ont justement la puissance.
Je vais te citer un cas qui est encore plus grave. On avait un copain Dreyfus qui était allé, quand il était jeune, il a fait payer sa crise de sionisme, il était allé dans un kibbous. C'était donc les premiers kibbous, les gars mordus et tout. Les kibbous marchaient parce que les gars qui faisaient l'encadrement, c'était des gars qui sortaient des camps de concentration. Et les jeunes, on leur avait tout donné. Et ils ne se sentaient pas concernés. Ils ne se sentaient pas... Ils n'ont pas repris. Et les kibbous, petit à petit, sont tombés. Et pourtant, c'était les gars. Ils avaient eu tout.
Ça a été fait exprès, je crois. Les kibbous, on les a instaurés là pour qu'ils s'installent. Parce que depuis 1907, c'était déjà bien décidé qu'on allait les mettre là.
Les gars qui menaient le système, ils en avaient balayé, ils sortaient des camps de concentration. Mais les jeunes, qui en avaient tout donné, c'était parce que c'était les jeunes qui... Et après, ils ne se sentaient plus concernés.
Non, ouais, moi je ne crois pas trop.
C'est un peu la nature humaine, il y a une forme d'adaptation à la facilité aussi. Et ça lui a permis de survivre. Regarde, si les Indiens s'étaient simplement révoltés contre les Espagnols à fond, ils auraient complètement disparu. Ils se sont adaptés, ils auraient survécu comme ça.
C'est ouais, plus je sais pas, c'est ça. Moi, ça me gêne un peu.
Et oui, mais bon, il n'y a pas dans les chromosomes le fait comme non. Ça. Tu avances.
Chromosomes.
Et parfois, bon, ben. Les
chromosomes, ils sont les chromosomes.
Oui, oui. Ben justement, c'est ça que j'accepte pas.
Quoi. Mais voilà, moi, j'accepte pas non plus les chromosomes.
Pas dans la réalité, parce que c'est simplement. Avec un peu moins de médiocrité, on pourrait arranger beaucoup de choses. Ils ont fait des expériences justement où les gars préfèrent gagner moins plutôt que celui qui est à côté gagne encore moins.
Oui, mais on est dans un système. On répète dans ce système et c'est tout. Et c'est pas faux. Les choses se font pas comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est inhérent à l'espèce humaine. C'est pas ça. Et que,
elle n'est pas faite pour interrompre un programme.
Oui, des fois tu peux te le dire, mais bon.
Tu fais des hypothèses sociologiques pour aller un peu plus loin, mais elle n'est pas programmée pour faire.
Peut-être par rapport à la paresse. La liberté. Pour revenir à la question de la paresse, oui, peut-être que. Un des problèmes, c'est l'imagination, justement. C'est-à-dire qu'on est tellement éduqué. Enfin, il y a un cercle vicieux. C'est-à-dire que la raison pour laquelle les ouvriers ne se sentent pas à même de reprendre l'entreprise ou les citoyens de décider de la société. Je crois que c'est précisément parce que depuis qu'on est, on nous éduque, on nous forme dans ce modèle de la représentation qui est la seule manière raisonnable, etc. Et justement, il y a les contre-exemples. Donc, il y a les contre-exemples au niveau local avec ces entreprises. Il y a le contre-exemple aussi de Barcelone en 1936 où il y a un million de.
Ils n'entendent pas.
Pardon ?
On t'entend pas.
Je comprends tout ce qu'elle dit. Georges aussi, mais il faut que vous éloigniez la voix pour ceux qui sont en dessous.
Oui, non, je disais à propos de la paresse que, enfin, évidemment, la paresse est un bon concept parce que ça nous place face à nos responsabilités. Donc je pense que c'est bien de poser la question sous forme de paresse, mais une origine du manque d'audace, c'est l'éducation et le fait qu'on ne nous pousse pas à développer l'imagination, à même imaginer que ce soit possible une autre façon de gérer soit l'entreprise, soit la société, soit les relations avec les voisins, etc. Et en particulier la société, c'est-à-dire qu'on nous oppose sans arrêt l'argument du nombre. Et pourtant, les contre-exemples existent. Et donc, dans les contre-exemples locaux, là, on vient de le dire, il y a Fralib, il y a l'Argentine, il y a plusieurs exemples d'entreprises qui se rendent autonomes. Fralib, ils ont des circonstances exceptionnelles. Et alors, c'est vrai qu'ils sont toujours dans l'environnement d'une société où tout est basé sur la valeur marchande. Hein. Ouais. Et puis après, il y a aussi des exemples politiques. Il y a l'exemple de 1936, en Espagne, à Barcelone, où il y a un million de personnes qui étaient affiliées à la CNT. Et puis au moment où les choses commencent vraiment à se détériorer, ils prennent en charge toute une région, ils disent qu'il n'y a plus besoin d'argent, et en deux jours, ils réorganisent tout. Tout le travail repart, alors qu'il n'y a plus d'argent. Les épiciers vendent les épices, les conducteurs de tram conduisent les trams. Il a fallu deux jours pour que tout se remette en place. Ouais. Puis ça a continué pendant des mois. Bon, après, l'histoire a repris le dessus. Enfin, l'histoire, le rouleau compresseur de la violence a repris le dessus. Et donc, ces exemples montrent que même. Enfin, que c'est possible à petite échelle et à large échelle. C'est pas, oui, on ne peut pas dire qu'il y a une impossibilité intrinsèque.
Il faut justement le faire dès le départ. Parce que moi, je vois dans les maternelles, si tu veux, les enfants, on les laisse libres de faire ce qu'ils veulent. Moi, je l'ai vu, l'exemple, puisque j'ai tout le temps médité aussi avec les. Puisque j'ai eu des enfants, et je suis toujours allée aux réunions. À la maternelle, tu vois des enfants, tu vois qu'ils font des œuvres, quelquefois en peinture, justement, en écriture, en n'importe quoi, qui sont des merveilles. Dès qu'ils rentrent en CP, on leur dit non, ça se fait comme ça, ça se fait pas comme ça. Et c'est là où commence, si tu veux, on leur fout dans la tête, attention, hein, tu fais ce qu'on te dit et tu fermes ta gueule. Et c'est là, tu vois, où on doit se battre. Dans les maternelles, partout, au début des enfants, parce qu'il n'y a que ça qui peut faire changer le monde. Qu'on change nos enfants, qu'on leur foute pas dans la gueule tout ce qu'on leur fout dans la gueule. Parce que c'est ça où on les tue, où on tue notre imagination. À l'école, après, au CP, dès que tu rentres en CP. Justement, de là, et puis tout ça, pas que lui, tout un tas d'autres groupes, à un moment donné, on fait un travail qui, justement, empêchait les enfants de devenir comme ça. Bon, ils étaient très vite récupérés dès qu'ils partaient au lycée ailleurs. Malheureusement, tu vois. Parce que ça, il n'y avait pas de suite chez les plus grands, souvent. Mais le travail qu'il est à faire, il est là. Si on ne fait pas ce travail-là, dans les maternelles, dès que l'enfant est petit, on n'arrivera jamais à changer le monde. On ne peut pas, parce que chaque fois, si tu veux, on les récupère, ces gamins. Alors, en ce moment, c'est encore pire avec leur jeu débile et puis leur truc. C'est épouvantable, quoi. Alors, comment faire, justement, pour tu vois, faire en sorte que les profs, à un moment donné, en PC, au CP, ils refusent de rentrer dans les normes de l'éducation.
Mais non, mais les profs remplissent la fonction que la société leur donne, elle leur dit,
faites. Ils ne le font pas.
Mais c'est un homme, justement. La fonction de l'école depuis Jules Ferry, c'est bien celle-là. C'est bien faire des jeunes soumis qui sont au service du prof. C'est la mission de l'école.
Les instituts de maternelle, elles se sont insurgées sur Nanterre. Il faut dire qu'à Nanterre, c'est une municipalité communiste depuis 1935, donc il y avait des trucs super. Je dois dire vraiment, j'en ai pas vu ailleurs, malheureusement. Là, il y avait vraiment des gens qui se battaient, des institutrices de maternelle qui se sont battues, qui sont allées même des fois travailler dans les PC, dans les CP, et bien un peu plus même, puisqu'ils gardaient leurs élèves de temps à autre. Mais ça ne s'est pas continué. On essayait de le faire sur la Garenne, sur Colombes, sur les départements des Hauts-de-Seine. Il n'y avait rien à faire, quoi. On avait en face de nous des instituts qui après nous disaient « Mais des fois, vous venez, ce n'est pas votre travail. » C'est épouvantable, quoi, ça. C'est épouvantable, parce que dès le départ, paf, dès que les enfants sortent de maternelle, on leur inculque des choses où tu dois rentrer dans la norme. C'est là le premier travail à faire.
Il y a quand même des pédagogies qui se sont élevées contre ça. Je pense à la pédagogie soignée, par exemple, qui s'est élevée contre ça.
Bien sûr,
Moi, je travaille intelligemment. Mon inspectrice a débarqué dans ma classe, elle marque trois fois dans son rapport, cette classe ne mène qu'à l'anarchie. Oui, mais trois fois, je l'ai le rapport. Je veux dire, il faut savoir que toute l'institution, elle est faite pour dire, mais elle est arrivée, je faisais conseil de classe.
C'est horrible.
Bon, je veux dire, elle arrive, évidemment, elle me voit assis au milieu des élèves, un élève qui préside, et un élève qui m'interroge sur pourquoi j'avais fait ça et comment je m'étais comporté comme ça. C'était inadmissible pour elle.
Je
remplissais pas la mission pour laquelle l'éducation nationale m'avait embauché. Voilà, c'est bien ça qu'il faut comprendre.
Parlez fort.
Parce qu'il me semble que les premiers réfractaires aux modifications qu'on peut apporter dans l'éducation, c'est les parents d'élèves. On a quand même
oui.
Ici, si on pose la question de, on va nous rebattre les oreilles de, les enfants ne savent pas lire, les enfants ne connaissent pas l'orthographe, donc revenons aux méthodes ancestrales où on apprenait, donc juste pour
établir un peu
la vérité.
Non, mais c'est vrai que tu as raison, parce que quand on se plaignait justement, les parents disaient « Ah, mais quand même, il faut qu'ils apprennent à lire, à écrire et à compter ». C'est vrai aussi, quoi.
C'est-à-dire qu'il y a aussi ce qu'on a
plus que les médias
qui parlent, il y a des enfants qui ne savent pas lire. Aujourd'hui, il y a tant de professeurs d'élèves qui ne savent pas lire par rapport aux années 50 où l'école n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, où il n'y avait pas l'école pour tous, il n'y avait pas le collège pour tous. Donc ce qu'on essaie, c'est de revenir sur ces acquis, me semble, pour revenir à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire l'école de l'élite, c'est l'école de la masse.
C'est un peu parce que l'école, la famille, c'est comme l'école, c'est un maillon pour reproduire une telle société donnée.
Oui, il y a ça. Mais peut-être aussi quelque chose d'important, c'est que... qu'est-ce que j'allais dire ? Ça y est, ça m'échappe. Dommage. Parce que... allez-y.
Je peux me permettre ?
Bien sûr, oui.
Je voudrais rebondir justement là-dessus pour dire que pire que la paresse, justement, il y a l'acte volontaire d'intégration. Et le sociologue Alain Touraine, père de Maryse Touraine, disait très bien que par rapport à la jeunesse contestataire de 68, la jeunesse d'aujourd'hui cherchait à tout prix à s'intégrer. Donc il y a le problème face à l'autonomie qui doit être recherchée pour les esprits lucides, les plus consciencieux, aider aussi à une conscientisation, bien sûr, de masse. En attendant, cette conscientisation qui, pour moi, ne peut venir que d'une révolte, d'un chaos, comme existe actuellement le chaos économique et social, qui, d'après moi, peut effectivement arriver à un échappatoire, c'est-à-dire comment on peut passer de la société féodale, on est passé à la société capitaliste, on va passer de la société capitaliste à cette société autonome, du moins, il faut l'espérer. Mais je reviens que au thème essentiel de Castoriadis, il a parlé d'autocritique indispensable, il a rejoint un peu le concept marxiste essentiel pour moi la pensée marxiste avant tout c'est l'autocritique permanente. Le militant marxiste c'est quelqu'un qui sait pratiquer l'autocritique permanente pour avancer, pour se remettre en question, chose que ont totalement oublié ceux qui se sont instaurés en pouvoir dictatorial en Russie, etc., etc., que critiquer déjà Rosa Luxembourg dès 17-18, c'est-à-dire de critiquer Lénine. Il y en a qui ont attendu 40, 50, 60, il y en a qui en 60-70 disaient toujours bilan globalement positif. Mmh. Ensuite, il y a toutes les thématiques qui vont s'ouvrir par rapport à cette révolte autonome qui va venir avec tout notre pouvoir historique que chaque être humain a en lui. Par rapport à... Là, il y a le chaos et la confusion parce que les esprits sont torturés, ils sont déboussolés. Il y a ce commun qui a abouti au communisme, qui a été un échec total. Notre si bel idéal du socialisme, y compris du socialisme libertaire, parce que le but de la société, sa place, c'est le socialisme libertaire. Donc cet idéal a été complètement fourvoyé. Lénine, en voulant faire ce qu'ils ont fait à la Commune de Paris, s'est complètement trompé. Il a choisi plutôt le côté de Robespierre. Et ça a été même pire que Robespierre, bon, ça a abouti à Staline, tout ça. Ça a été pire qu'Hitler, puisqu'ils ont tué leur propre peuple. Mmh. Bon, Hitler, en dehors de la nuit des longs couteaux, en dehors de la nuit de cristal, je veux dire, son propre peuple, il n'a pas tellement touché. Staline, son propre peuple. Il a exterminé les peuples européens, les peuples juifs, etc.
Mais il a amené où
Staline, ça a été pour moi, ça a été dictateur. Encore pire que Hitler. Je crois qu'il n'y a pas de pouvoir de régulation à ce niveau-là. Mais moi, je pense que maintenant, on est face à une intégration volontaire de la part des individus, y compris dès l'enfance. Les parents ou les grands-parents qui achètent les portables aux enfants à 10 ans, 12 ans, ils poussent aussi à cette intégration. Les jeunes, ils sont dans la confusion et la peur, la hantise de ce chômage, de cette survivance sociale. Donc il faut tenir compte de tous ces paramètres-là. Et l'explosion, lorsqu'elle va survenir, il ne faut pas non plus que nous, on apporte par nos thématiques démultipliées qui seront nécessaires. Mais si on les apporte d'une façon aussi confuse, chacun des anciens, un peu comme ça s'est produit en 68, 68, ça a été quand même assez cool dans le sens que la rue prenait la parole, il y a eu des masses de gens dans la rue qui se sont retrouvés à discuter et à s'étonner d'eux-mêmes, donc c'est quand même beau et significatif. Mais je veux dire, ce qui va se passer, moi, d'après moi, ça va être puissance 100, mai 68. Parce que, c'est, vu les circonstances, vu le développement de ce qui est en train de se passer, je signale à ceux qui ne sont pas trop au courant, dernièrement au Portugal, il y avait 1 million de participants aux manifestations qui se revendiquaient apolitiques, c'est-à-dire qu'on dégageait les hommes de parti qui sont le parti d'hommes, donc dégager les PCP et compagnie de l'époque de la Révolution des Juillet, et ils scandaient quand même les slogans comme démocratie active et directe, et ils chantaient Grandola Villarmoen. Donc c'est énorme. C'est comme si nous, à Marseille, on avait 300 000 manifestants qui chantaient et scandaient des slogans de 68. Donc il faut tout remettre dans le contexte, comme Castoriadis le fait si bien. On n'arrive pas à décrire s'il est optimiste ou pessimiste, parce qu'il dit que ce sera difficile. Ce sera très difficile. Mais il ne faut pas croire que c'est utopique. C'est en fonction de la conscientisation des gens. Et puis surtout, moi j'insiste sur le fait que vous avez bien repris, à un moment donné, c'est cette réciprocité, ce respect, cette justice entre nous. Je pense que la citoyenneté, c'est effectivement cette réciprocité. Et la citoyenneté ne peut exister que dans la réciprocité. Sinon, ce n'est pas une citoyenneté. Donc un être qui se dit citoyen, républicain, on a les fondamentaux, on a toute notre culture. Ça part d'Aristote, ça part encore plus loin, mais je veux dire, on a tous les fondements essentiels dans nos cultures, dans notre histoire, dans l'histoire qu'on traversait l'Europe, qu'on traversait les pays, pour faire ce que l'homme doit faire. À condition de s'y prendre.
Mais est-ce que ce n'est pas une contrainte ce que tu dis? Parce que par exemple, pour revenir à que faire, est-ce que la bonne réponse à la question que faire, c'est de dire je ne sais pas comment faire? Justement, pour quand il est posé. Pour donner une chance à une société autonome, justement, pour que, comme condition préalable à la connaissance et à l'organisation, c'est-à-dire qu'arriver chacun, si tu arrives déjà avec un paquet, avec ce que tu as, effectivement, si on pose comme au départ l'idée qu'on ne sait pas comment faire, je veux dire, que donc on n'impose aucune connaissance et aucune organisation à personne. On va se lancer dans les expériences avec la, comme tu disais tout à l'heure, avec la réalité que tout ça est mortel. Je veux dire, on ne met rien en place pour l'éternité. Je veux dire, on arrive en se disant on ne sait pas comment faire, on va essayer d'être le plus autonome et faire preuve d'imagination radicale avec un peu ce qu'on est. On pose aucune condition préalable, on part vers des expériences qu'on peut fédérer
Et puis, si elles ne vont pas, si elles disparaissent en cours de route, pourquoi pas? On l'a dit, après tout est mortel, je veux dire, on l'est. Nos connaissances sont appelées à évoluer. Et ce qu'on peut mettre en place, ça peut changer du jour au lendemain. Mais au moins, en disant, à mon avis, en disant qu'on ne sait pas comment faire, on n'impose rien à personne, on n'impose aucune connaissance et aucune organisation. Et ça ne veut pas dire que nous, en nous, on ne possède aucune connaissance et aucune idée d'organisation, mais on construit pas à pas, en ne refusant pas le fait que ça peut disparaître à chaque instant. Puis on verra bien, il sortira peut-être quelque chose.
Oui, mais c'est pour ça qu'à l'escroc,
ils sont cassés la figure. Non, c'est pas de dire qu'on ne sait pas où on va, je veux dire. C'est qu'on n'impose rien comme préalable et on n'impose pas une construction ad vitam aeternam. On n'a pas de drapeau, on n'a pas d'hymne, on n'a pas de phrase toute faite.
Il y a le conflit de Larzac qui a
été. Il faut construire quand même.
L'IP n'a pas tenu au-delà de 2 ans.
Mais c'est pas grave, on en a parlé tout à l'heure. C'était pas fait pour tenir.
Il faut se rendre à l'évidence, c'est bien.
L'escope, c'est pas fait pour tenir éternellement.
Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'humanité. Mais moi, j'ai pas de paquet à présenter. Moi, ça va être une révolte chaotique.
Voilà, et éviter de venir avec un paquet. Avec un package, si tu veux, avec voilà.
Il ne faut pas exagérer non plus, évidemment, dans le fait de dire faisons n'importe quoi et que voilà. Ça passe et que ça donne lieu à autre chose, parce que il y a quand même, si on veut changer les choses, c'est bien parce qu'elles sont insupportables.
Voilà, il y a un sens.
Parce qu'elles sont révoltantes. C'est parce qu'il y a une condition humaine qui est grave, quoi. C'est parce que, donc, non seulement il y a des gens qui sont dans des situations matérielles épouvantables, mais même ceux qui ne le sont pas sont dans des conditions psychiques épouvantables. Enfin, nous, même nous. Il y a quand même du meilleur et du moins bon. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'on va n'importe où. On crée ce qu'on croit être meilleur pour tout le monde. Donc, c'est simplement que ce qu'on croit être meilleur va évoluer. Et c'est qu'au fur et à mesure que les circonstances changeront, on devra adapter. Ou au fur et à mesure qu'on dit qu'il y aura d'autres désirs ou d'autres choses à réaliser, on les réalisera. Mais c'est pas dire que tout se vaut, quoi. Enfin, donc, quand on pose la question que faire, c'est d'une part que faire pour que ce soit mieux, pour que la situation s'améliore, hein, évidemment pas pour que l'empire, et que faire aussi pour commencer et pour ne pas rester justement dans cette stagnation où on a l'impression justement qu'il n'y a rien à faire et qu'alors on ne fait rien justement, on subit passivement. Je pense qu'il faut quand même se donner des étapes, se dire voilà, commençons par ceci ou par cela, parce qu'on pense que ça sera un germe pour que ça augmente dans le bon sens quand même.
Voilà.
Donc il y a une différence entre fermer complètement le projet peut-être et puis ne pas du tout en indiquer parce que...
Voilà, exactement. Non mais c'est comme ça que... Parce que
la révolution se doit d'être raisonnable.
En fait, il faut qu'il y ait un sens là.
De toute façon, la révolution...
C'est-à-dire que ce qui ne marche pas, s'éteindra. Ouais. Donc naturellement. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas présenter des revendications démultipliées. Il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, il faut espérer que le peuple aura cette conscience en lui d'y aller. Puisqu'il a cette survivance-là, il a, c'est pas cette paresse, il a cette idée de s'intégrer pour se protéger. Donc espérons que ça, dans ce moment de révolte, il aura aussi cette idée de survivance et de vouloir prospérer pour aller vers le mieux, vers le bien, tout simplement. Et on ne doit présenter aucun passage, aucun passage. C'est la liberté totale.
Déjà, il y a une chose à bien changer, c'est qu'au départ, on parlait de socialisation. Maintenant, on parle d'intégration.
Oui, voilà.
Le mot socialisation n'existe plus. Hein. Et pourtant, c'est là-dessus qu'on doit se battre.
Mais nous, on parle de conscientisation.
Ben non, voilà.
C'est
le problème. Au départ, si on ne fait pas ça, déjà, on ne peut pas avancer ailleurs. Quoi. C'est ça qui est horrible.
Oui, exactement.
Ouais, mais il faut faire avec ce qu'on a, hein. Parce qu'il faut se rendre compte, quand tu fais une assemblée générale de copropriétaires, les gars, ça discute de leur fric et de leur environnement. Et comme il y en a qui se déplacent, ils préfèrent regarder la télévision. C'est leur fric et leur... On leur demande pas beaucoup. C'est leur environnement et c'est ce qu'ils vont dépasser. Comme il y en a qui se déplacent. Fralib, on parlait de Fralib. Fralib, ils ont fermé l'usine à Rouen. Je les avais suivis à l'époque. Marseille n'avait pas bougé. Ils n'étaient pas touchés. C'était les copains de Rouen enfermés à leur usine. On en a envoyé quelques-uns là-bas. Ils n'ont pas bougé. Ils bougent quand ils sont le couteau sur la gorge. Voilà.
Sûr,
c'est pas une conscience qu'ils ont pris. Parce que voilà, il fallait sauver.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as des morts,
il faut faire avec ça aussi.
Tu te sens responsable, on te le dit.
Non, mais c'est une réalité que.
Si tu penses pas, on te dit que tu as un
sabot. Non, mais c'est une réalité aussi que les gens.
Faut pas rêver,
pauvre.
pour lutter sur le moment, sur des choses concrètes, quand tu vois que tu fais progresser petit à petit.
Non, mais c'est...
Tu ne peux pas rêver qu'aujourd'hui, tu vas changer mondialement. Aujourd'hui, on est intégré, on parle de la mondialisation, tu n'as pas mondialement une prise de conscience mondiale.
Ben, oui.
Il y a des contradictions dans le système qui fait que, bon, il ne peut pas avancer.
Ça, on le sait, non, mais ça, on le sait.
Bon, là, oui, on peut faire...
Les gens, ils sont pris dans leurs besoins immédiats, et c'est là qu'ils bougent. Dans leur lorsqu'ils sont là, par exemple, ben, ils sont licenciés ou on menace d'être licenciés, etc., etc. Voilà. C'est là qu'ils bougent, plus ou moins, pas toujours. Hein.
Pour voir les taux de syndicalisation.
Mais bon, cela dit...
C'est la conscience de soi. Il oui, faut faire avec ça.
Non, mais
faut... Si tu dis que ce n'est pas la solution, la violence, non, mais à un moment luttes, donné, hein. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre?
Il y a des luttes à mener. Hein.
Non, mais... Oui, mais ça changera hein pas.
C'est ça le problème, parce que une révolution peut être plus un peu sereine, pas trop brutale, mais au moins, je vois ça, moi, pour changer le monde quand même aussi. À un moment donné, tu es obligé de prendre la rue et de prendre le pouvoir comme ça. Sinon, tu ne le laisseras pas prendre.
Attendez, je vais donner la parole parce que sinon, il y en a qui sont dominés par les dominants. Monsieur, puis Tony.
Non, moi, je dis que c'est l'oligarchie qui va reprendre le pouvoir, bien sûr, qui est fait par la violence.
Ou une autre oligarchie.
Une autre oligarchie, oui, c'est ce que je veux dire.
Et les élections, ce n'est pas la violence, c'est pourtant...
D'abord, quand tu as parlé d'imposer une révolution par la force, j'ai pensé à une phrase d'André Gorz que je cite juste simplement de mémoire, qui dit que si une révolution qui s'imposerait par la violence, elle mettrait en place d'autres types tant qu'on n'a pas changé la mentalité propre des gens. C'est-à-dire que c'est d'abord la libération de l'imaginaire qui permettra les conditions de créer une société nouvelle. Sinon, on prendra le pouvoir, et celui qui a le pouvoir, ben, il saura pour les autres ce qu'il faut faire, et on reproduira ce qui s'est produit pour toutes les révolutions, dire que ceux qui la font, ils savent ce qu'il faut faire, et ils sont gênés par les autres. Voilà.
Je pense que je comprends ce que tu voulais dire, parce que je crois que ce que tu veux dire, c'est qu'à un moment, si l'imaginaire d'une majorité de gens a changé, mais qui continue à être écrasé par les institutions parce qu'il y a le monopole de la violence de l'État, etc., contre cette violence-là, oui, à un moment, peut-être, il faudra se libérer. Mais ça, c'est quand, effectivement, la préparation est faite. C'est-à-dire que, voilà, quand la préparation est faite et qu'il reste juste c'est cette minorité au pouvoir qui s'y cramponne, évidemment, elle s'y cramponnera. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être, voilà. Mais on est loin de là, je veux dire.
Oui, on est loin.
Évidemment. Il y a une préparation d'abord.
Mais il y a une préparation. On est dans la préparation, je crois.
Ouais. Il y a quand même une leçon de mai 68. Mai 68, les gens étaient tous dans la rue. Enfin, on avait l'impression que la France était dans la rue. Il a suffi qu'on ouvre le robinet d'essence pour que les gens y rentrent dans leur voiture. Je veux dire, enfin, on a quand même un exemple concret de ce que ça veut dire le rêve d'une révolution. Voilà. C'est aussi parfois...
C'est dur, ça.
On n'avait pas changé, on avait changé une partie de l'imaginaire, oui, parce que ça a été un rêve énorme. Mais en même temps, il y a eu des élections après et c'est ce que ça a donné.
Les vieilles habitudes.
Il y avait encore... Vous aviez demandé la parole. Oui, moi je pense qu'il faut assurer la stabilité,
qu'il faut garder espoir et que le feu prouve sous la cendre. Hors frontières françaises, il faut voir ce qui se passe actuellement, par exemple en Italie. Les gens ne cèdent pas. Ils ont voté un mouvement que j'ai dit lors de l'intervention ici, qui était situé entre notre Coluche français et Michael Moore aux États-Unis, contrairement à ce que pensent certains, que c'était soi-disant la mouvance d'extrême droite, pas du tout. Moi j'étais présent dans le mouvement altermondialiste, j'y suis toujours. J'étais présent à Gênes en 2020, j'étais présent à Florence en 2002. Croyez-moi que les masses italiennes, elles sont drôlement mobilisées. Elles n'ont pas les pensées obligatoirement comme on les entend ici ce soir. Donc il faut relativiser, il faut rester optimiste, mais c'est certain qu'il faudra passer par des phases de conscientisation assez importantes et développées parmi le peuple, avec, on espère quand même... non pas des guides, c'est bien sûr que non, parce que sinon ce sera encore l'histoire du paquet qu'on apporte au peuple qui veut... Non, les masses elles doivent être autonomes, mais elles vont sentir ce besoin à un moment donné, parce que maintenant on parlait de 68 et c'est vrai, les gens sont rentrés vite chez eux, mais on était toujours dans les 30 glorieuses, dans la super consommation, etc., voilà. etc. Et il y avait tout ce mouvement anticonformiste, c'est ça qui a fait surtout mai 68 et ce mouvement disons anti-stalinien aussi, il faut pas oublier. Malheureusement, bon, il y a beaucoup qui se sont fourvoyés dans les mouvements maoïstes ici, etc., et qui étaient aussi pour la dictature, tous étaient dans les mouvements d'extrême gauche. Mais moi personnellement j'étais dans les mouvements d'extrême gauche très jeune, dès le début des les années 70, tout de suite après 68, et on était malheureusement pour le concept aussi de dictature du prolétariat, parce que c'était Marx et Engels, il fallait à tout prix. Donc on était un peu beaucoup, on était anti-staliniens, mais on n'avait pas encore à ingurgiter l'anti-léninisme. Maintenant, on comprend mieux, donc on a évolué, on s'est changé. On sait se remettre en question, donc on adopte le principe majeur du marxisme, qui est l'autocritique. Et moi, maintenant, je me considère comme un petit léniniste, et je suis contre ce qui s'est passé, bien sûr, dès janvier 18, la prise par les bolcheviques de la constituante et de la destruction même de la politique de la démocratie en Russie, et etc., etc. Mais moi, ce que je veux dire à tous les amis ici présents, c'est gardons espoir, battons-nous. Les séances que vous avez menées, c'est sont magnifiques. Vous avez très bien, bravo à Castoriadis, bravo à vous aussi pour la clarté de vos interventions, parce que ça nous a permis de mieux le comprendre, et puis surtout de mieux comprendre, pour ceux qui sont engagés, le travail qui nous reste à faire, mais dans le respect, la réciprocité, la justice, dans le respect du peuple, dans le respect des gens, c'est-à-dire en leur laissant leur liberté de révolte. On ne va pas se révolter. Et puis que nous, ça sert à rien, c'est des millions et des millions. Donc qui va maîtriser le processus? Personne. L'histoire parlera.
Oui. Non, mais ça va dans le même sens, mais ça a l'air d'être un peu hors sujet, mais ça ne l'est pas. Il va falloir replacer l'art au sein d'un projet de société. De toute façon, il y a un syndicat national des artistes plasticiens, le SNAP, qui est en train de foutre le camp, qui va rejoindre un autre syndicat, je ne connais pas le sigle des écrivains, des auteurs. Le SNAP, c'est des... J'ai honte, j'en fais pas partie, parce que j'ai payé deux fois une caisse d'assurance, j'étais autrement salarié. Néanmoins, le SNAP représente des milliers d'artistes en France, et ça va disparaître en ce moment. En tout cas, ils sont en train de se bagarrer pour ça. Mais je crois qu'effectivement, il y a des milliers d'artistes, il y a une multitude d'artistes qui n'ont pas eu le droit de visibilité durant ces décennies, parce qu'il y a eu un dictat, une force incroyable exercée au niveau des choix esthétiques, de la pensée, des concepts. Et ça, c'est dramatique. Moi, j'ai un âge où j'ai vu plein de copains crever. Peintres, talentueux. Je suis resté 10 ans aux Beaux-Arts de Paris. J'en ai vu des générations de doués. Et tout ça, ils sont, à part un ou deux qui ont su appliquer les codes de la création artistique des années 70 ou 80, tous les autres, c'est une misère morale. Vous avez parlé, j'ai noté... C'est une dramatisation. Enfin, oui, il y a des vies terribles dont on n'a pas conscience. Peindre, ce n'est pas une autosatisfaction créée. Enfin, vous le savez tous ici. C'est un engagement de nos vies, de ce que nous sommes. Donc, c'est très important. Ça peut aussi passer par une remise en... De toute façon, il y a l'effondrement des bourses, de l'argent pour les artistes subventionnés. Les institutions vont se casser la gueule. Ça y est, il n'y a plus de fric. Donc, toutes ces représentations culturelles prestigieuses, ou les coquilles vides dont parle, on ne va pas dire de nom, les politiques de Marseille, mais qui sont certains conscients qu'on ne saura pas quoi mettre dedans. Ça va être très beau, moi le Mucem j'admire. Mais bon, moi j'expose en face au Musée Regard de Provence. Je suis ravi. Je me demande ce qui m'arrive depuis quelques mois. Je pensais que 2013 serait un désert épouvantable, parce que justement il l'est pour des artistes qui sont ni élitistes, ni dans les arts de la rue. Enfin au milieu, on n'est rien du tout. On est de la merde. Et je vous assure que c'est inquiétant de voir ces énormes bâtiments qui vont. Il va y avoir quoi dedans? Comment ça va fonctionner? Donc je pense que ça peut plus. Ça va. Le fait qu'il n'y ait pas d'argent, on arrêtera de subventionner, on arrêtera d'aider des artistes Bac plus 10 qui sortent des universités, des écoles d'art. J'ai des très bons amis enseignants, j'ai rien contre eux. Et qu'on arrête de fabriquer des artistes avec des modèles de type de création qui sont complètement, qui intéressent personne, si ce n'est, toujours une catégorie de gens privilégiés, snobs, etc. Je crois que ça va se casser la gueule à tous les niveaux.
Il faut.
On y est très près. Nous, on sera peut-être plus là, mais ça va...
Il faut que ça se passe.
Les galeries privées, tout ça, on dénonce des choses. Je l'ai dit le premier jour où j'ai raté malheureusement le début du cours. J'ai eu une pause cérébrale, j'avais complètement zappé le premier cours, je suis arrivé pratiquement à la fin. Bon, mais néanmoins, il est certain que il va y avoir... j'ai perdu le fil. Voilà. Oui. Bon.
Ben, c'est moi qui suis hors sujet maintenant. Parce qu'enfin, je voulais poursuivre ce que disait précédemment. C'est tout. Oui, voilà. Lorsqu'il parlait en 18, je suis le fil de son. Je suis la continuité de son discours. Hein, justement, des gens dans la rue, des masses, ce qu'on appelle les masses. J'aime pas tellement ce terme des masses, mais bon, les surnuméraires aujourd'hui. Eh bien. Dès 18, il faut savoir que les travailleurs de Petrograd et de Moscou ont tout autogéré. Il faut savoir ça. Et que Lénine les a réprimés en disant que les travailleurs doivent oublier leur auto-administration de la société. Il a fait fusiller d'ailleurs les principaux leaders et envoyer dans les camps, etc., etc. Et que dès 1918, les camps ont été ouverts. Alors, si c'est révolutionnaire, Lénine, moi je suis désolé, mais bon...
Pas je crois qu'on est bien
d'accord. D'accord, voilà. Mais bon, maintenant, quant à l'art, je ne sais pas, l'art, là, vous disiez l'art entre ceux qui passent et ceux qui ne passent pas, je ne sais pas, moi, l'art. Aujourd'hui, l'art, on le voit dans la gentrification, l'art, l'artiste précède le flic. Ce
n'est pas n'importe quel artiste, je crois qu'il a raison de dire que le système de subvention fait que, évidemment, on instaure en même temps des critères pour ceux qu'on va subventionner, ceux qu'on ne va pas subventionner, et que ces critères instaurent une mode artistique.
Oui.
Ou dépendent d'une mode artistique, ne font qu'entériner une mode artistique, c'est possible. Même chose dans l'urbanisme. Voilà. Et donc, ceux qui sont les béliers.
Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais l'art, il n'a plus rien de révolutionnaire.
Après, si l'art. Oui, mais. C'est le problème de l'art subventionné. Si on supprime totalement les subventions, c'est la même chose pour les artistes et pour les philosophes. Qui va continuer? Qui va continuer sans subvention? Ceux qui ont vraiment quelque chose à dire, ceux qui ont vraiment le truc.
Oui.
Et ils vont trouver à se débrouiller d'une manière ou d'une autre pour survivre autrement. Il va peut-être y avoir des nouvelles solidarités, une caisse de solidarité d'artistes entre eux. Et celui qui arrive à vendre parce qu'il a la chance que ça plaît, pour une raison ou une autre, il pourra peut-être partager avec les autres, etc. Je veux dire, peut-être qu'il va se passer des nouvelles choses intéressantes.
Des nouveaux réseaux se créent tout naturellement. Moi, ça y est, j'ai 30 ans, 40 ans. Mais je veux dire, c'est obligé. Il y a le public qui est très, très capable de choisir ses artistes qui en a besoin. Non, mais c'est très important. Moi, je suis très gêné de parler d'art et parce que culture, c'est pas sujet.
Mais culture, il faut parler de seule expérience.
Non, mais je suis conscient de toutes les luttes dont vous parlez. Mais je crois que tu es dans l'œuvre pour parler de l'enfance, etc., des vocations, des talents. Vous savez, si vous avez du talent, le jury des Beaux-Arts, il ne voudra pas prendre votre enfant s'il a du talent. Parce que ça ne les intéresse pas. Il faut qu'il ait un conseil, il faut qu'il ait. Voilà, on est arrivé à se marcher sur la tête, on est devant le mur, et malheureusement, on ne peut pas rester. Malheureusement, il ne faut pas rester neutre, on ne peut pas, quoi. Moi, je ne parle pas en mon nom, que ce soit très clair. Un peu mon expérience, qu'est-ce que tu veux dire?
L'objectif, ce serait de rendre tout le monde artiste.
Je suis conscient qu'il y a un dilemme entre la société et l'artiste. J'essayais d'en parler tout à l'heure. Je suis bien conscient qu'il est vieux comme le monde. Mais c'est en lisant ce livre que je me suis rendu compte à quel point la psyché est importante, l'imaginaire est important. Sinon, j'aurais même pas, j'osais pas prendre la parole tout le temps que je suis venu. Parce que justement, on est un peu. Le Nietzsche, déjà, je me sentirais plus à l'aise et à fortiori Deleuze. Mais bien sûr que c'est un problème cruel, crucial. Sans artistes, la société, on est des sauvages, on est dans une barbarie. On y est d'ailleurs, parce que l'art qu'on propose ne réjouit personne. Moi, j'ai des jeunes qui viennent nous voir, j'enseigne dans différents lieux. C'est ici qu'on fait de l'art, ils font des tags, et il y a des fossés énormes entre ce qu'ils font, cet art de rue, qui d'ailleurs rentre dans les galeries, dans le système économique. Tout est très compliqué, ambigu. Mais il faut que ces barrières tombent et puis qu'effectivement on vienne à des valeurs. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le problème des enfants, enfin, c'est très particulier, mais d'éducation. Les enfants ont du talent, ils ne le savent pas jusqu'à 7-8 ans. C'est pas après que. Qu'est-ce que vous voulez donner comme. Moi, j'ai eu des enfants à m'occuper longtemps, si vous voulez leur dire, pas dans l'éducation nationale. Je n'aurais pas supporté, j'ai admis un monsieur, là, c'est ce que je fais. Je n'aurais pas pu supporter cette autorité, c'est compte à régler. Non, mais par contre, effectivement, les enfants, après, à 11 ans, je suis désolé, hier, il y avait Picasso, c'est odieux, puis en même temps, pendant une heure, on voit des très belles images de peinture. qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on en prend plein la gueule, plein les mirettes. Et c'est très important qu'à un moment donné, Picasso, à 11 ans, son père, il avait appris, il maîtrisait complètement les bases classiques. Moi, je suis toujours emmerdé quand je donnais des cours depuis très longtemps, d'amener des antiques, de reprendre certains, le modèle vivant qui ne vient, vient plus dans les écoles de Beaux-Arts qui ont mis en question. Non, c'est très grave parce qu'on a appris le latin, le grec, on n'enseigne plus. On est dans une perte de sens complète.
Se pose la question de si on va continuer l'écriture manuelle aux États-Unis.
Ah oui, d'accord.
Il se pose la question s'ils vont continuer l'écriture manuelle aux États-Unis. C'est en train de se poser la question.
Même le livre, d'ailleurs.
Ça, c'est pas très grave, je dirais. Changer de support n'empêche pas nécessairement que continue à se développer la pensée, la créativité. Changer de support, c'est pas trop grave. Faut pas se scléroser sur. Mais c'est vrai que l'idée de l'investissement, c'était ça que je voulais dire, répondre tout à l'heure à propos du problème des enseignants. C'est vrai que ça sert à rien de se renvoyer la balle. Il y a un appauvrissement de l'école à cause des enseignants, à cause des parents, etc. Il y a un problème d'investissement dans la culture et dans le savoir, problème général. Et en grande partie, si les enfants apprennent moins bien ou moins vite, c'est parce qu'ils ne sont pas motivés pour apprendre. Et c'est vrai que la motivation, ça dépend de tellement de facteurs. Je veux dire, c'est tellement diffus dans la société que encore une fois, ça rejoint la création de nouvelles valeurs, etc. Quoi. Revaloriser une certaine... culture, créativité et connaissance, évidemment, un plaisir de la connaissance, c'est essentiel. Et c'est vrai que par rapport aux artistes, il y a aussi, je comprends bien, peut-être une confusion entre le fait que tout le monde a une certaine créativité et devrait pouvoir l'exprimer, et d'autre part le fait que tout le monde n'est pas artiste. C'est-à-dire qu'il y a des gens quand même qui sont plus doués ou qui vont développer quelque chose de plus intéressant pour une raison ou pour une autre, et qui vont et voilà, tout le monde n'est pas Picasso. Même si on laissait tous les enfants faire ce que lui a fait, il ne deviendrait pas Picasso. Moi, je me heurte souvent à la même chose avec la philosophie, parce que bon, très vite il y a les gens qui lisent un peu de philosophie, qui discutent, etc., ils se disent, bon, voilà, tout le monde est philosophe, il suffit de laisser aussi aller sa spontanéité et tout. Il y a aussi un investissement dans les textes, dans l'histoire philosophique, dans les trucs que tout le monde n'a pas envie de faire. Et donc, il y a un moment où on choisit sa voie et on ne peut pas les choisir toutes et on ne les réussira pas toutes. Donc, je veux dire, voilà, peut-être que tu voulais aussi dire ça.
C'est plus rigueur.
Voilà, il y a une rigueur, mais évidemment qu'il y a une rigueur dans chaque activité, si on veut la faire bien, à un moment il y a une rigueur, un investissement qui est tel que tout le monde ne le fera pas. Et heureusement, sinon où serait la diversité, etc.
Mais ça a été l'introduction de ton cours, hein, c'est ce que tu as dit à l'ouvrage. Hein. Je veux dire, c'est pas un café philosophique, c'est autre chose. Il y a un moment où on a un rapport au savoir, un rapport à la connaissance, un rapport à l'artiste. Effectivement, moi je ne pense pas qu'on est tous artistes. Même si chacun il a envie de barbouiller, de faire quelque chose, etc., qui s'exprime, ça lui fait du bien, etc. Je pense que quand même, il y a des gens qui sont capables de nous faire sortir quelque chose que tout seul on n'a pas vu, qui me font voir quelque chose que j'aurais pas vu. Mais c'est la photo, c'est pas parce que j'appuie sur un appareil perfectionné que je suis photographe. Et après, le photographe qui lui est capable de me faire voir autre chose qui est au-delà de ce que moi j'avais vu. Et c'est ça l'artiste, c'est le passeur. Et c'est pareil pour le philosophe, c'est pareil pour le poète, etc.
C'est pas le but, c'est le chemin.
Mais oui.
Quand on rejoint le... Tu as parlé tout à l'heure des situationnistes.
Oui.
Les situationnistes, c'est ça, au départ, sont des artistes. Ce sont des critiques de l'art. Et ensuite, c'est devenu des critiques de la société qui produisait l'art qui critiquait. Donc ça a évolué vers autre chose. Enfin, l'art, si tu veux, c'est un point de départ d'une situation subversive révolutionnaire ou autre, c'est devenu autre chose. Au départ, c'est
artistique.
Oui. Ça rentre dans les musées, ça ne veut plus rien dire. Alors, c'est un artiste qui critique le système de l'art.
Oui, mais si tu critiques la société qui fait entrer dans...
Tu critiques les musées.
Tu étais un artiste au départ, tu deviens autre chose.
Ah oui.
Oui, mais c'est bien le problème. C'est
l'intérêt du mouvement
situationniste. De critiquer les musées.
Je pense que c'est valable aujourd'hui.
Ben oui, les hippies ne voulaient pas rentrer dans les musées. Hein. Voilà, tout simplement. Pour mettre par terre les musées.
Mais non, parce que ça, on le disait en 68. Moi, c'est horrifié. Moi, je n'avais que ça pour m'exprimer à 15 ans. Ça, ou faire le petit voyou dans les banlieues à Colombes.
Ben, tu peux peindre.
Heureusement que j'étais au Beaux-Arts à 15 ans. J'ai fait deux académies. Les deux académies en face du bistrot. Il y avait des types géniaux, d'ailleurs, dans ces générations-là, qui sont encore en vie, d'ailleurs, certains. Je pense, bon, enfin, peu importe. À Rabal, des gens comme ça, et Gainsbourg, pour prendre ses clopes, c'était formidable, j'ai, à 15 ans, d'être là-dedans. Mais j'ai rien compris à ce qui se passait en 68, j'avais rien compris au mouvement situationniste à Debord, etc. Et surtout, je voyais que la peinture avait foutu le camp. C'était l'art conceptuel, c'était Beuys, c'était...
c'était les modes.
Klein, Yves Klein, et tout ça. Et les galeries, c'était les murs nus, plus de tableaux, plus de vide. Ben, moi, ce concept, c'est... Et cet art social, repris par des discours sociaux, j'ai quitté Paris. Ah, je l'ai payé très cher.
Oui, mais non, mais les situs, il faut vieux,
c'est pas peut-être pas avec Klein. Je suis parti dans les années 70, c'était un vivant. Alors j'ai fait mon petit hippie, mais ma femme, heureusement, m'en a empêché, dans les Cévennes et tout. Je n'étais pas allé me perdre dans les fins fonds des Cévennes, que heureusement, elle m'avait peur dans les vallées de Châtaignier. Mais je n'étais pas acheté la première ruine venue, on va acheter. Oui, peu à peu. Voilà. Mais ça ne tient pas à grand-chose, des fois. Enfin, peu importe. C'est un cas individuel, que j'insiste là-dessus. Ce qui est terrible, c'est qu'il l'a très bien dit dans Miami le premier jour, sans cette connaissance que l'on acquiert avec. Pour des différentes raisons, on a parlé de révolte, on a parlé de différentes raisons, de richesse intérieure, peut-être, j'en sais rien, qui font une balance, mais il est certain que dans ces choses-là, beaucoup de gens ne peuvent pas survivre, ils ne peuvent pas vivre, mais pas s'exprimer, c'est énorme l'importance de laisser s'exprimer. Alors bon, après, on est né dans des conditions, enfin, Camus, sa mère, elle était sourde, hein, elle est sourde muette, hein, si j'ai bien compris.
Elle était un peu retardée mentale. Elle était un petit peu retardée, mais pas sourde.
Oui. Bon, ben voilà. Non, mais c'est sûr qu'il y a des milieux plus... C'est injuste, de toute façon, la vie. Moi, je comprends, je suis un peu gêné quand je parle d'art. Je comprends que ce n'est pas le sujet principal d'une société.
L'expression artistique, c'est pas que la peinture, c'est tout. C'est là le truc.
Le problème, c'est qu'on est dans une société qui évolue à une telle vitesse. On parle de révolution, mais c'est une société qui évolue à une telle vitesse, on n'arrive même pas à la comprendre. Il faut venir à des intelligences en réseau pour essayer de comprendre. On n'arrive pas à être spécialiste d'une partie. Même, ça devient de plus en plus pointu ce qu'on arrive à savoir dans les sciences, dans toutes les évolutions. Donc un individu ne peut plus connaître. Il ne peut plus connaître. Il est obligé d'être en groupe pour que les autres lui donnent les indications, tout ça. Si le gars il fait de l'informatique tout seul dans un coin, il est paumé. C'est fini. Donc on est en train de passer avec des systèmes de réseau. Et voilà,
mais ça c'est pas grave, parce que ça c'est là, c'est de l'épistémé. Et dans l'épistémé, on peut être spécialisé. Il peut y avoir des mathématiciens qui se comprennent simplement entre 10 personnes dans le monde. Il peut y avoir des informaticiens super pointus. Il peut y avoir... Peu importe, on est dans l'épistémé. On n'est pas obligé d'échanger, là. Du moment qu'on peut échanger à ce niveau aussi. Comprendre le cadre général dans lequel ça se fait. C'est-à-dire, pourquoi on développe ces techniques hyper pointues? Pourquoi on développe l'informatique comme ça? Ça, c'est le cadre de la doxa. Et on pourrait éventuellement décider d'arrêter de faire ça. Mais voilà. Et là, tout le monde est égaux. Et tout le monde est capable de saisir, parce qu'on n'a pas besoin de connaître justement toute cette précision, pour saisir à quoi ça sert, et pour décider est-ce qu'on veut continuer ou pas. C'est ça la grande différence.
C'est pas évident. C'est pas évident parce que. C'est pas évident parce que. On n'a même plus que. Même en s'intéressant aux choses, on n'est plus. On n'arrive plus à. On arrive à cerner qu'un petit morceau de la photo du système.
Voilà. Je me souviens d'une expérience en 68 où j'ai passé mon bac. Et j'étais une fille déjà. Hein, et puis j'étais dans le milieu ouvrier. Donc. Par accident, parce que je voulais faire le crêpes, de la gymnastique, tout ça. Et on m'a dit que j'avais mon bac par quota. En fait. C'était sympa. Et ensuite, j'étais étudiante travailleuse. Donc pendant 4 ans, j'ai suivi les cours de psychologie. Et pour moi, c'était un univers formidable. C'était connaissance, tout ça va. Mais surtout, il y a eu pendant ces 4 ans à Aix, un groupe de jeunes professeurs qui venaient du Canada, et qui ont instauré un système qui n'a jamais pu exister. C'était par, on choisissait un contrat pour 4 ans, peu importe, plus d'examen formel, peu importe le moment où on savait, mais il fallait qu'on sache. Et on avait des cours d'épistémologie. Il y avait un prof, qui était un ancien prof de philo, et qui nous a mis à l'aise dès le début. Peu d'entre vous auront une place dans la société, mais tous, vous allez pouvoir échanger.
Et c'est le seul endroit où j'ai pu faire ça. Et c'était formidable. Mmh. Vous n'aurez pas forcément un travail, vous n'aurez pas forcément un métier, mais votre vie sera changée forcément. Vous apprendrez peut-être à réfléchir. Ça, c'est...
Ben oui.
Épistémologie, je ne sais pas si c'est différent.
Ça existe, mais c'est pris justement dans les finalités. Exactement ces finalités-là. Si c'est professionnalisant, on le fait. Si c'est pas professionnalisant, on le fait pas.
Tout ça, c'est un peu fini, quoi.
Enfin, c'est pas fini définitivement. Hein, comme, moi, je trouve que c'est intéressant aussi de se dire, ce que Castoria dit, c'est que ça existe toujours dans notre histoire. On en a toujours la mémoire. On en a toujours les traces. On est quand même aussi un petit peu formé par ça. On a ce désir. Et c'est pas la même chose que de devoir tout réinventer.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. À la fin du tour.
Enfin, on peut inventer du nouveau. Il ne faut pas non plus revenir seulement à l'ancien. Mais on sait qu'on est déjà nourri de beaucoup de perspectives différentes.